Hello, Selem, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Imen, ou plutôt Imen est avec moi. Je ne sais pas trop dans quel sens, mais voilà. On va parler de plein de choses et ça faisait un moment qu'on voulait faire un podcast, une vidéo. Bref, on parle tout le temps, elle et moi. On a des milliers de choses à se dire. Et à chaque fois, on se dit, bah, pourquoi on ne partagerait pas ces réflexions avec vous? Parce que je pense que c'est des choses qui peuvent vous parler, des choses qui peuvent vous aider. Là, en l'occurrence, je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Et bon, vous connaissez, il n'y a rien de près. On va essayer de discuter au fil de l'eau. Et voilà, bah, pour les personnes qui me connaissent et qui connaissent pas Imen, eh ben, elle va se présenter et après on fera l'inverse.
Parfait. Merci de me recevoir, ma très chère amie Anya. Et ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Et en fait, je pense que ce qui a beaucoup joué pour le retard dans notre contenu à deux, parce qu'en fait, on est hyper perfectionniste. Du coup, on se disait, mais en fait, il faut que le truc soit à un certain niveau. Et ça, bon, on le sait, ça a créé beaucoup d'obstacles à la création de contenu. Du coup, pour ceux, celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Imen Benhamadi et je suis psychologue clinicienne. Donc, je travaille en libéral, en fait, j'ai mes propres patients et voilà. Et je suis passionnée par la psychologie et par la vulgarisation de la psychologie. Donc, j'aime bien essayer de comprendre un peu tout ce qui nous entoure, de faire, je suis plutôt, j'avoue, dans tout ce qui est écriture. Donc, j'aime bien faire un peu des articles où j'analyse de manière un peu plus psychologique, soit des films, soit des musiques, soit des livres, etc., etc. Et voilà, je te laisse la parole.
Résume archi bien. Là, elle vous a fait un petit peu la modeste, hein, mais elle fait un million de choses, des choses incroyables. Elle aussi, d'ailleurs, elle a. Bah, je sais pas, peut-être que tu mettras ça sur ta chaîne, ou enfin, je sais pas en fait, c'est destiné à où, mais en tout cas, elle a aussi un podcast, Les Réflexions Vagabondes, et il y a un seul épisode, mais c'est le meilleur épisode de podcast de ma playlist, donc voilà, vous pouvez aller voir. Et trop, trop bien, bah, trop cool. Moi, en ce qui me concerne, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anya. Je fais plein de choses, mais on va dire une de ces casquettes-là, c'est créatrice de contenu, et du coup, bah, j'ai ma chaîne de podcast, on parle de plein de trucs différents. Vous pouvez aller sur Instagram, Anya.agri. Vous allez vite prendre le train en route. Voilà. Pas besoin de plus d'infos. Du coup, on va poser un petit peu le point de départ du sujet, puis on va aller là où ça nous mènera. Le sujet, c'est vraiment comment on a pu organiser nos projets. Souvent, on nous pose la question, comment vous équilibrez votre vie pro, votre vie perso, comment vous avez même la motivation de faire quelque chose, de créer un truc from zéro, toute seule. Je pense que voilà, on peut balayer plein de trucs avec. Et je vais laisser Imen commencer en te demandant déjà, bah, parce que toi, de base, t'étais à l'école. Ensuite, t'es devenue psy, donc libérale, du coup, en indé. T'es pas partie dans un cabinet ou dans une clinique privée ou dans un truc où là, t'es salariée, on va gérer les trucs pour toi. Bah, comment t'as vécu ouais, la transition, en fait?
Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai un peu commencé les réseaux sociaux et je pense que c'est important qu'on parle des réseaux sociaux parce qu'en fait, ça a un peu été la porte à tous les projets qu'on a pu faire, que ce soit toi, moi ou j'allais dire nous ensemble, mais en vrai, on n'a pas eu de projet ensemble. Mais en gros, tous nos projets, en fait, les réseaux sociaux, ça a été une grande porte ouverte. Du coup, moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais vraiment en master de psycho. Et en fait, je publiais un peu, je postais un peu des trucs qui m'intéressaient sur ce que je faisais en cours. Du coup, j'étais en cours et en même temps, bah, on faisait que ce soit des exercices d'hypnose ou des concepts qu'on voyait et que j'avais jamais vu dans la vraie vie. Et en plus, qui se rapprochaient, bon, pour le coup, on n'a pas prévu de parler de ça, mais ça se rapprochait grave, bah, de ma spiritualité, etc. Et en fait, je savais qu'il y avait quelques personnes qui me suivaient. On parle genre de genre 100 personnes, tu vois, qui me suivaient. Et je me disais, vas-y, trop intéressant, je vais partager. Et donc, j'ai commencé comme ça un peu. Et donc pour l'instant, l'organisation, elle était hyper simple. En fait, j'allais en cours, je partageais de temps en temps, et en fait, j'avais rien besoin de faire. Tu vois, c'était hyper simple, hyper carré, etc. Et je pense que c'est important que je commence là, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé d'intervenir en conférence. Donc, j'étais encore pas du tout psychologue, j'étais étudiante. Je sais pas si tu te rappelles, c'était à la mosquée de Strasbourg. Et on m'avait proposé d'intervenir, donc j'étais encore étudiante et c'est donc là que j'ai dû commencer un peu à m'organiser parce qu'en fait il y avait le truc où en fait on me proposait des projets à côté, d'interventions, de conférences ou autres, et en même temps j'étais en cours et en plus en master, c'est pas n'importe quel cours, c'est quand même des cours qui sont un peu importants. Bon après moi pour le coup j'ai toujours eu un peu de chance, je suis un peu la pro de l'organisation, j'aime trop m'organiser, je trouve ça trop important. Pourquoi? Parce que j'ai une personnalité qui a besoin que tout soit carré. J'ai besoin que mon environnement de travail soit carré. J'ai besoin que mon organisation soit carrée, que mon emploi du temps soit carré. Donc, en fait, dès qu'on vient un peu perturber ça, anxiété, angoisse, etc. Donc, j'ai beaucoup dû travailler sur ça. Et ce que je faisais, c'est que j'avais vraiment compartimenté mon temps en trucs de, bon, bah, ça, c'est pour mes révisions. Ça, c'est pour ma préparation de mon titre de psychologue. Et à côté, bah, c'est pour ma petite préparation de mes conférences, etc. Parce que vraiment, à l'ancienne, je me préparais énormément mes conférences. Oh, c'était hyper anxiogène pour moi. Mais voilà, donc petite introduction sur ça, même si l'organisation n'était pas ouf. Après, j'ai commencé à travailler. Donc, je suis sortie de mon master. J'ai direct commencé en libéral quelques mois après. J'ai eu mon statut de psychologue. Je me suis lancée en libéral. Et là, j'ai besoin de m'organiser parce que vraiment, là, c'est la vie d'adulte. C'était dur. Ah, c'était dur, franchement. Parce qu'en fait, donc quand tu travailles en libéral, tu as tes patients. Mais en même temps, il faut que tu travailles les cas de tes patients entre-temps. Du coup, en fait, tu as la première consultation qui est plutôt facile à gérer, on va dire, entre gros guillemets. Il n'y a pas vraiment besoin de préparation. On est déjà préparé à ça. Par contre, le reste, moi, je fais de la thérapie TCC. Vous pourrez aller chercher ce que c'est. Mais en gros, on donne des exercices à faire, on donne des outils aux patients. Et donc, il bah, faut que les outils soient hyper personnalisés aux patients. Et du coup, il faut que tu t'organises à ce que, avant le prochain rendez-vous, tu aies pu prévoir cet exercice-là pour le patient, tu aies pu revoir, tu aies pu faire de la supervision s'il y a besoin avec un autre psychologue, etc. C'est quand même une organisation assez importante. Et par rapport à ça, je pense que la priorité, c'est de justement prioriser. Priorité. Ok, là pour cette semaine, moi comme je vous ai dit, je suis très carrée. Ça veut dire que je m'organisais semaine par semaine. C'était vraiment ok, grosse to-do de la semaine. Je dois voir le cas de telle patiente. Je dois, bah, je sais pas, imprimer tel outil. Je dois travailler sur ces outils-là parce que franchement, quand tu sors d'un master de psycho, en vrai, il y a plein de choses que tu dois développer de toi-même.
Bah, en plus, j'y pensais, c'est limite, c'est comme une entreprise. Parce qu'en fait, tu dois taffer ton marketing, tu dois taffer ton site, tu
Ouais,
dois faire de
ouais.
la communication, tu dois avoir ta plus-value parce qu'il y a plein de psychologues. Donc, il faut que toi, t'apportes ton truc. Enfin, c'est une entreprise, le truc.
Mais oui, exactement. Et du coup, il y avait aussi toute la partie Instagram, où là, ça prenait de fou malade quand j'ai commencé à taffer. Et j'avais de plus en plus d'invitations à bah, viens parler de ci, viens parler de ça, etc. Et Instagram, bah, en fait, c'est un peu ma page Doctolib. C'est ça qui me faisait avoir des patients. Et en même temps, bah, du coup, il faut que tu l'entretiennes, ça. Et après, je pense ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu une certaine stimulation intellectuelle à aller chercher les infos. Donc, en fait, j'ai toujours kiffé écrire. Lire, m'intéresser à des sujets, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle autant de sujets hyper profonds toi et moi qu'on est ensemble, parce qu'on a un peu cette fibre intellectuelle ensemble. Et donc voilà, je compartimentais mon temps en ok, bon bah là ça c'est mon temps pour mon taf, mon vrai taf, genre mes consultations slash bah, la préparation de cas. Après il faut compter aussi tous les trucs administratifs à faire quand t'es psychologue tout seul, c'est qu'en fait tu dois gérer tout. Mais vraiment tout. Donc les factures à faire, à la fin du mois, tout ce qui est l'URSSAF, les factures à faire, les impôts à faire, c'est long
Puis
ça.
en plus, tu avais aussi ton cabinet en présentiel à un moment. Ça veut dire que là, ouais, bah, j'imagine qu'il y a plein de choses dans la recherche, dans le bail, dans plein de trucs.
Ouais, exactement. Moi, je faisais vraiment, comme j'ai dit, en fait, prioriser. Donc, je priorisais dans ma semaine. Généralement, je priorisais beaucoup mon travail parce qu'en fait, c'était, bon, bah, là, il y a des patients qui attendent des trucs de moi, donc j'en ai besoin pour tout de suite maintenant. Et après, je priorisais beaucoup en ce que je préfère faire et ce que je ne préfère pas faire. Par exemple, je sais que les factures, je les fais toujours en fin de semaine parce que c'est pas quelque chose que j'aime pas faire, mais c'est juste, c'est prenant, c'est un peu, voilà, c'est lourd, relou, quoi. En plus, moi, j'ai pas de comptable, j'ai pas d'expert comptable ou autre, je suis vraiment livrée à moi-même, donc je fais tout toute seule, en fait. Donc voilà, et en même temps, il y avait tout le côté un peu bah, la recherche, en fait, intellectuelle que je faisais à côté, parce que d'ailleurs, je voulais faire une thèse, j'étais à la recherche de directeur de thèse, donc en fait, il y avait plein de projets en tête. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais vraiment délimité ma semaine. Début de semaine, je taffe pour de vrai. J'ai mes patients, j'ai mes cas, etc. Fin de semaine, donc généralement, c'était jeudi, vendredi. Tu le sais maintenant, jamais travaillé le vendredi, puisque bah, justement, je travaillais sur mes projets à côté. Et le jeudi, vendredi, je faisais tout ce qui était au début recherche de cabinet, tout ce qui était administratif et tout ce qui était donc là recherche intellectuelle puis écriture. Parce que enfin, j'écris d'ailleurs toujours beaucoup. Donc voilà, je compartimentais mon temps comme ça. Et après, bien évidemment, il y a le truc de l'organisation de la vie perso à côté, qui pour certains n'ont peut-être pas besoin parce qu'ils sont dans une famille où il n'y a pas besoin de passer du temps ensemble, tu vois. Après, il y en a d'autres qui sont mariés, donc etc., etc. Et ça, moi, je le faisais beaucoup le week-end, tu vois. J'essayais de passer le plus de temps avec ceux avec qui je dois passer du temps le week-end. Donc à ce moment-là, c'était vraiment au début de mon taf, je faisais ça comme ça. Donc voilà, je pense que c'est une bonne introduction à
Ouais,
moi.
non,
Parce
grave,
qu'au
j'ai
début, c'est hyper long. Est-ce que du coup, toi, tu peux nous dire comment tu as commencé justement à trouver un équilibre entre ton organisation de tes projets, de ton taf, de ta vie perso, de ta vie, de tes projets qui apportent pas d'argent tout de suite maintenant. Donc en fait, c'est vraiment pas une priorité, tu vois, sur le moment. Comment tu faisais un peu?
Bah, comme tu as dit, en fait, au début, pareil, je suis à l'école, donc très, très compliqué pour avoir des projets à côté. En vrai, je pense que j'en ai pas à ce moment-là, et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est l'école, c'est tellement bien parce que ton seul projet, c'est l'école.
Ouais.
T'as pas à penser à... Enfin, aussi, il y a des gens qui sont incroyables et qui font des trucs de fou en même temps que l'école, mais en tout cas, tu as la tête légère parce que moi, j'ai, tu sais, ce truc-là de culte de la productivité où je me dis, faut absolument que je produise des choses, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et en fait, à l'école, je me dis, là, mon projet, c'est l'école. Tous les jours, je dois réussir mes examens, je dois réussir mon mémoire de stage, je dois valider, je dois avoir mon diplôme, enfin, d'histoire. Une fois que le diplôme, il est en poche, ben là, en fait, je suis en mode, purée, la vie, elle a plus de sens. Qu'est-ce que je fais? Ok,
Bah
j'ai
ouais.
mon CDI. Ok, j'ai mon taf, mais et après, je vais. C'était. Enfin, en fait, c'est ça. Je pense que mon moi, il a commencé à être en décalage avec un peu bah, ma routine de 8h, 19h, la défense, on rentre, etc. Et gros gap dans le futur, on va
Temps.
dire. Mais je commence ma création de contenu bah, quand je m'expatrie à Dubaï. Et c'est à ce moment-là aussi que je commence à populer mon livre pour justement le sortir. Donc voilà, on va dire, c'est là que les projets perso, puisque de base, bah, du coup, ça, c'était mes projets perso. Et mon pro, tu sais, c'était mon CDI, quoi. Donc
Oui, bah ouais.
c'était différent, alors que normalement, le perso, comme tu as dit, c'est le temps en famille, c'est la balance et tout. Mais en fait, non, moi, dans le perso, bah, c'était les projets qui sont hors du taf pour lequel j'ai signé un contrat, tu vois. Donc à ce moment-là, j'arrive quand même à avoir cette balance parce que j'ai quand même mon temps de pause déj, j'ai le soir, je suis toute seule à Dubaï. Donc en vrai, j'ai pas de vie perso, genre potes, famille et tout. Donc j'ai grave du temps. J'arrive à continuer à faire de la création de contenu, à sortir mon livre et tout. Et j'arrive à un moment, je pense, où il fallait faire un choix. Et mon CDI, j'étais pas bien dedans parce que mon taf me plaisait pas. La création de contenu et tous les projets que j'avais à côté, je voulais bah, créer mon association, ouvrir mon entreprise, faire plein de choses. Ça pouvait plus être en accord dans le sens où l'un ou l'autre serait bâclé, ou en fait j'allais mettre un peu d'énergie dans l'un, un peu d'énergie dans l'autre, mais finalement, ce que je dis souvent, c'est que si tu prends pas de risque, bah, tu risques pas d'avoir des résultats. Genre, c'est en fait c'est de la sécurité, mais de la sécurité en plus qui m'épanouissait pas. Donc, bref. Je pète un plomb, je démissionne pour la cinquième fois de ma vie, je pense. Et c'est à ce moment-là que je commence vraiment à me mettre à fond sur les réseaux. Et ça, je pense que c'est motivant, même si on ne fait pas ça pour les abonnés, etc., pour les gens qui veulent faire la création de contenu, leur dire que le travail, en fait, paye vraiment parce qu'en termes de temps, quand je suis en CDI, clairement, on va dire la création de contenu, c'est voilà au fil de l'eau, quand j'ai un peu de temps,
Ah oui.
par-ci, par-là, etc. Quand je démissionne, je commence vraiment à faire de la création de contenu régulière. Donc dans ma tête, j'ai mon petit planning, j'ai les sujets que j'ai envie de traiter, je me lance sur Twitch, je me lance sur YouTube, je commence à faire plus de contenu. Et là, je pense que je double mes abonnés en, je sais pas, genre 6 mois, alors que j'étais déjà sur les réseaux depuis
Oui.
3 mois, tu vois.
Oui, je m'en rappelle que moi j'étais en mode, mais comment ça a pu augmenter aussi vite?
C'est ça?
Ouais.
Et je trouve ça super motivant pour les gens de leur dire qu'en gros, non, les réseaux, c'est pas de la chance, c'est pas aléatoire. Il y a un algo, tu peux le dompter. Si tu arrives à faire quelque chose de noble, quelque chose qui peut aider et qui t'intéresse toi, ça intéressera forcément des autres gens. Mais
Exactement.
juste, il faut être régulière,
Ouais.
faut travailler, tu vois. Après, il faut pas que ça devienne une pression. Hein. Je sais que, enfin, je pense que toi aussi, on pourra en parler un peu, tu vois, des réseaux sociaux, En fait, faut pas que ça devienne une corvée, ça c'est sûr, parce que sinon tu ne pourras pas le faire. Et c'est de base, c'est censé être un plaisir. Mais voilà, en tout cas, au moment où je peux y mettre 100% de mon temps, ça pète, ça commence à grandir et ça me permet aussi bah, de prendre le temps d'écrire mon deuxième livre, de gérer du coup mon showroom de location de caftan, de mieux gérer mon asso et de me concentrer aussi sur bah, mes activités de coaching, d'accompagnement. Bref, j'ai plus de temps pour gérer tout ça. Et après, c'est vraiment comme toi. Je pense que c'est. Il y a des avantages, des inconvénients à l'organisation, genre toute seule. C'est comme tu as dit, tu vois, là par exemple, tu peux gérer les trucs que tu n'aimes pas à la fin de la semaine, tu peux
Ouais.
gérer ton jeudi et vendredi, ça va être pour les choses que, on va dire, voilà, pour ta recherche intellectuelle, même si c'est du travail, ça reste quand même cool et tout.
Bah oui, c'est trop bien. Ouais.
Voilà. Donc on peut gérer notre semaine quand on veut, mais comme tu as dit, il faut avoir de l'organisation très 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 rigoureuse et il ne faut pas se laisser déborder par les événements. Et le premier conseil que je me suis donné à moi-même, c'est mets-toi des deadlines comme si tu étais ton propre patron.
Ouais.
Genre, tu vois, ma manager, elle me stressait quand j'étais en cabinet de conseil parce qu'il faut absolument rendre le truc à midi. Et bien, j'ai commencé à me dire, à mettre des trucs comme ça, tu vois, dans mon planning, en mode ça, c'est la date définitive, tu vois. Tu dois avoir écrit ton premier chapitre le 16 novembre et fin de l'histoire. Et si tu ne l'as pas écrit, t'es une bouffonne.
Bah, en fait, tu vois, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Je me disais, en fait, il faut que je fasse quand même une parenthèse sur ça, qui est que, en fait, l'organisation, les gens, je trouve, idéalisent beaucoup la motivation dans nos tafs. Et en fait, bah, je trouve que la motivation, ça a un grand, grand, grand impact. Et moi, je passe même un petit temps de mon week-end à me motiver pour la semaine. Je sais pas si tu te rappelles
Dis-moi.
un jour, j'avais partagé une to-do sur un
Ouais.
autre groupe à trois.
Ouais.
Et t'avais rigolé parce qu'il y avait marqué se motiver.
Ah ouais, trop drôle, mais
Genre,
oui.
moi, je passe vraiment un certain temps à me motiver, en fait, pour ce que je
Oui.
fais. Parce que bah, parfois, j'ai pas de motivation. En fait, mon taf, il est pas compliqué. Vraiment, il est pas compliqué, mais il est quand même un peu fatigant. Donc, j'essaye de me motiver.
Et comment tu fais?
Après, après, là, je pense que c'est propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun. Moi, je suis beaucoup dans la visualisation. Donc, moi, j'ai beaucoup besoin d'images. Que ce soit des vidéos, des séries, des trucs comme ça. Enfin, je pense que tu le sais, on en parle énormément, mais moi, je suis vraiment une personne obsédée par YouTube. Ça veut dire que j'ai une liste à regarder et je regarde 10 000 vidéos en même temps. Et ça
Ouais.
motive. Les
Ok.
gens qui font de la création de contenu, mais plutôt intellectuel, parce que moi, je suis peut-être plus
Ouais.
dans ça, bah moi, ça me motive, mais tellement.
Ouh. Donc en
Genre,
fait, tu vas regarder des gens qui. Enfin, là, tu vas regarder des gens qui t'inspirent et du coup qui vont te motiver à faire ta semaine, c'est ça?
exactement, exactement, ouais.
Trop
Et
bien.
mais le côté aussi discipline, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, tu as besoin de discipline. Et tu vois, se mettre des deadlines, c'est la discipline. Moi, bah en fait, je pourrais tomber dans un truc de je n'ai pas envie de faire mes factures, je les ferai à la fin de mois. Mais en fait, bah non. Sinon,
Dépassé.
j'en aurais encore plus à faire. Alors
Exactement.
que si je passe un petit temps à compartimenter à chaque fois mes petites tâches, bah ça va, c'est accessible, tu vois. Et ça, c'est de la discipline, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas envie de faire, hein. Il y a plein de taf que j'ai pas envie de faire, il y a plein de projets sur lesquels peut-être parfois j'ai pas envie d'avancer, mais je me suis lancée dedans, il faut de la discipline, et en fait, il faut que je me force à un certain moment, tu vois.
Exactement.
Ça veut pas dire, comme tu as dit tout à l'heure, ça veut pas dire qu'on se met une charge. Par exemple, sur les réseaux sociaux, bah moi, je suis la pro de je publie rien pendant 10 ans, mais je me mets pas de charge. Mais par
Oui.
contre, quand je me lance dans un truc, j'essaye d'avoir de la discipline, surtout si ça fait sens, et si je me suis lancée pour de vrai, tu vois.
Voilà, c'est ça que j'allais te dire. J'allais te dire peut-être que là, justement, les réseaux, parfois, t'es pas là parce que justement, c'est ta vision de ton planning, en fait. C'est
Oh,
pas
totalement.
un truc que tu délaisses. Non, c'est
Ouais,
comme
non,
toi, t'as
totalement.
visualisé ton planning en termes de projet et que. Et voilà.
Exactement.
Et puis j'imagine que bah, avec tout ce que tu gères, de toute façon, ça doit être. Comme tu as dit, en fait, il y a la vie perso, il y a la vie pro.
Ouais.
Ça, c'est. Voilà, là, c'est. Je pense que c'est pas le moment pour en plus. Enfin, t'as pas 1 000 heures dans ta journée. C'est.
Mais mon rêve, mon
Impossible de
rêve.
pareil, non mais de ouf. Ok, bah ouais, pour l'orga, c'est totalement ça. Et
Et du coup, toi, parce que tu m'as posé la question, excuse-moi, je te coupe, mais tu m'as posé la question de comment je gérais ma motivation, enfin comment je me motivais pour ma semaine ou mon mois. Comment toi, tu te motives du coup?
alors, moi, tout ce que j'ai prévu de faire ou ce que j'ai envie de faire, j'essaye d'y trouver à l'avance des motivations intrinsèques. En gros, par exemple, je donne souvent le cas du sport parce que c'est super facile de le définir. C'est je veux faire du sport. Et avant même de m'être lancée dans ça, donc maintenant il y a je sais pas, 1 an, 2 ans, je me disais, OK, j'ai envie de le faire parce que il y a des bienfaits psychiques, il y a des bienfaits psychologiques, ça va me permettre d'être de meilleure humeur, ça va me permettre de prendre soin de mon corps. Le corps, c'est une émana et Dieu, il nous a demandé d'en prendre soin. En fait, je vais trouver toutes les vraies motivations. Et ces motivations-là qui m'ont introduit en fait à commencer cette action-là, elles vont venir ensuite driver ma discipline. Donc les jours où j'ai pas envie de faire un truc, où j'ai pas envie d'aller au sport par exemple, eh ben je vais ouvrir mon carnet où j'ai écrit genre typiquement toutes mes motivations et je vais me dire ah non regarde là tu dis ouais je sais pas t'es un peu fatigué, c'est plus de la flemme c'est pas de la fatigue t'as un peu la flemme donc t'as pas envie d'y aller. Mais regarde t'as écrit noir sur blanc que justement le sport ça va te permettre de générer de l'énergie genre scientifiquement tu vas être moins fatigué tu vas avoir moins la flemme quand tu vas aller tu vas être fier de toi. Etc. Donc j'écris ces motivations-là, on va dire positives, et je le fais aussi, et ça on l'oublie souvent, négativement. C'est en gros, je vais dire, quand tu fais pas cette chose-là, comment tu te sens après? Et du coup, bah
Ouais, ça a du
ça me
sens.
fait dire, Bah purée, si tu le fais pas, Agnès, regarde, tu vas te sentir pas fière de toi, tu vas te culpabiliser, genre ton humeur, elle va baisser, ou bah pareil, comme toi, t'as dit, par exemple, tu fais les factures, bah tu vas dire, bah après, t'auras beaucoup moins de temps, ou tu vas passer ton week-end à stresser parce que t'as pas fait tes factures, ou si, ou ça, etc. Donc, en gros, il y a mes motivations positives et négatives qui viennent driver ma discipline, et ça me permet, ouais, je pense, de me discipliner, on va dire, quand on sort de tout le cadre, voilà, orga, productivité, etc. Et ces motivations-là, tu vois, genre, il y a les motivations sous-jacentes, enfin, petites, et après, bah, il y a la vision. Et ça, je pense que tu dois en avoir une aussi. C'est vraiment qui j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans et tout. Et quand je pense à ça, bah, je sais que chaque petite action qu'on fait tous les jours, ça va me rapprocher de ça. Et c'est mathématique, en gros, je me dis, bah, ok, si cette habitude-là, demain, ou la chose que j'ai prévu de faire, je la fais pas demain, je la fais pas après-demain, je la fais pas après-après-demain, bah, dans un an, je serai nulle part. Et du coup, bah, j'essaye de me motiver en disant ça. Et comme toi, je pense à m'inspirer de gens. Il n'y a pas longtemps, je parlais d'Yanissa, par exemple, et tout. Et je disais que je regardais ses vidéos YouTube qu'elle avait faites il y a, je sais pas, 10 ans. Et aujourd'hui, elle a 1 million d'abonnés, elle est millionnaire et tout. Bah, moi, je kiffe les trucs comme ça parce que je me dis, bah, bien sûr que c'est les montagnes. Enfin, on en parle tout le temps, ça fait un peu bullshit. Mais ouais, les montagnes, elles sont de petites pierres. Et en gros,
Bah
bah,
oui.
je... c'est comme ça.
En
Voilà.
fait, je pense que l'un des trucs qui est peut-être qui doit peut-être aider, c'est qu'en fait, en gros, tu maximises, je sais pas si ça se dit, mais en
Ouais, c'est
gros,
ça.
tu minimises un peu les projets sur le long terme. Ce que moi, j'ai un peu du mal à faire, par exemple,
Ouais.
enfin, tu le sais, et j'ai trop envie de le dire, tu vois, à tout le monde comme ça, en fait, je trouve que quand tu le dis, tu sais, c'est un peu un engagement public. Genre là, c'est un peu la honte si tu le fais pas dans ta vie. Mais
Totalement.
en gros, ça fait je sais pas combien de temps que je le dis un peu subtilement, etc., mais que je suis. 1, 2, 3, que je suis sur un projet d'écriture de livre, etc. Et ça fait genre, je ne sais pas combien de temps que je suis dessus, mais en
Ouais.
fait, c'est vraiment le truc de, dans ma tête, c'est un énorme projet. Et
Exactement.
c'est hyper dur, et surtout, comme je t'ai dit, on rajoute en plus le perfectionnisme, on rajoute quand ça te tient à cœur, etc., etc. Oh bah du coup, c'est vraiment impossible de te lancer parce que t'es en mode, mais jamais je le ferai aussi bien que je peux le faire. Et on sait en plus, c'est pas comme si on n'avait pas de capacité, tu vois, on sait qu'on a des compétences pour faire des trucs qui sont bien. Mais, bah, toi, tu me dis souvent, tu me dis le mieux, c'est l'ennemi du bien.
Totalement.
Si tu peux te lancer, faire des vieux trucs, et c'est ce
Ouais.
qu'on tente de faire, tu vois, ensemble, enfin, c'est ce que moi je tente de faire, en tout cas, c'est vraiment, je fais des petits trucs et des petits chapitres, etc., même si je sais que ça arrive pas, enfin, que c'est pas encore parfait, et que ça prend le temps que ça prendra pour être déjà très bien, tu vois. Mais
Ouais.
ouais, déjà, je pense qu'il y a ça qui est bien, et je rebondis sur un truc que tu as dit, et c'est hyper intéressant, et ça, j'utilise énormément avec mes patients, enfin, mes patientes, c'est que l'énergie vient de l'action. Donc, en fait, si tu es fatigué, tu n'auras pas d'énergie pour faire quelque chose. Du coup, tu n'auras pas de motivation. Généralement, tu ne vas pas le faire. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Vu que tu ne le fais pas, tu auras encore moins de motivation pour le faire le lendemain. Et en plus, parfois, il y a de l'autodévalorisation qui rentre dedans, etc., etc. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Là où il faut le casser, c'est qu'en fait, il faut que tu te forces à le faire parce que plus tu vas faire des choses, plus tu auras de l'énergie. Ça se renouvelle ensemble, tu vois. Par exemple, et c'est pour ça qu'on est en train de faire ce podcast, parce que j'étais hyper KO, j'étais à 10 000 rendez-vous ce matin, et en fait j'ai eu un appel téléphonique qui m'a un peu motivée, et c'était quand même hyper long, parce que ça a duré 1 heure, j'ai dû donner des informations, etc. Et ça m'a donné encore plus d'énergie, je me suis dit, là ça fait, franchement en plus ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur ce truc de podcast.
Avant que je parte à Oman, donc ça date de ouf.
Franchement, on n'arrêtait pas de se dire, vas-y, faut qu'on se pose, et en plus, c'est pas hyper long, tu vois. Mais ouais, j'ai eu encore plus d'énergie, et on s'est dit, bon, bah vas-y. Et donc, ça, je pense que c'est important, hein, de mettre enfin, de mettre en pratique ce concept-là, que l'énergie vient de l'action. Donc, faut que tu te forces à faire un petit truc, et ensuite, bah, les autres petits trucs, il faut toujours, enfin, compartimenter ces petites tâches à faire, bah, ça va te paraître beaucoup plus faisable.
Ok, et est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'action, de trucs comme ça que tu as vu dans tes consultations où enfin, faut se lancer
Ouais.
et se forcer,
Bah,
entre
mais
guillemets.
en vrai tout. Moi en fait, ça je le dis vraiment pour bah généralement c'est des personnes qui sont en dépression et qui ont en fait pas d'énergie, donc on revient sur le concept de où vient l'énergie, etc., pour leur expliquer que même le 1% d'énergie qu'elles ont, il va se renouveler. Donc on se dit, bon bah ok, bah après moi je suis très, enfin on est très pratico-pratique avec mes patientes, c'est vraiment qu'est-ce que tu as à faire, on fait la liste de tout ce qu'elles ont à faire, et généralement bah, c'est des petits trucs très bateaux, hein, genre faire la vaisselle, faire un respirateur, faire mon administratif, hein, tu vois, des petits trucs comme ça, et on se dit, ok, bah imaginons que ta vaisselle elle dure depuis 1 semaine. On va prendre juste les verres. Et
Okay.
demain, tu laves juste les verres. Mais par contre, je la force à s'arrêter à ça. Et petit à petit, bah, au bout de 2, 3 jours, en fait, laver juste les fourchettes, ce sera pas assez, tu vois, elle pourra faire plus. Donc là, on rajoute les couteaux, etc.,
Ouais,
etc. Et
trop.
en vrai, c'est ça, enfin, ça marche vraiment dans la vraie vie.
Ouais.
Il faut vraiment compartimenter ces petites tâches. Et en fait, ça va te motiver. Et en plus, tu auras beaucoup plus d'énergie à faire tout, quoi.
Tout le reste, purée. Mais c'est
Ouais.
trop bien, c'est comme pour ton livre, en fait.
Non,
Genre ça.
non, mais
Attends,
pour le
est-ce que tu peux nous donner une date idéale réaliste?
coup. Une date idéale réaliste dans 10 ans. Non,
Vas-y, sérieux.
vraiment de
Imaginons,
manière
genre, tu t'y
réaliste.
mettrais vraiment sérieusement en mode deadline, comme si tu as un éditeur qui te dit à telle date, il faut que ça soit sorti. Tu pourrais le sortir quand?
J'en ai aucune idée. Mais en fait, justement, moi, je pense que, tu vois, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise, OK, bah, dans tel temps. Et en fait, ce qui est difficile quand tu avances dans ta vie, c'est qu'après, il y a beaucoup plus de projets perso qui rentrent. Et là, c'est impossible de délimiter. Mais
Ouais.
vraiment, objectivement, ce que je me dis, et après, peut-être tu vas dire, c'est une deadline genre hyper abusée, mais
Non,
un
dis-moi.
projet qui me tient à cœur. Je me dis, en vrai, j'aimerais bien que dans 2 ans maximum, ce soit sorti.
Mais
C'est-à-dire
ça
que
va.
dans 2 ans, je l'ai vraiment écrit et je l'ai fini. Parce que bon, ça fait
Ouais. Ah, mais c'est
combien de temps que je suis en
dingue.
train de l'écrire, tu vois?
Ok. Ah non,
Donc,
je trouve que
mais
c'est une
voilà.
deadline très challengeante. Parce que moi, quand on me dit ton livre mode d'emploi, comment cheminer vers l'excellence, là, enfin, toi, tu le connais, le livre, je pense qu'il sortira dans 5 ans. Hein.
Oui, bah après, c'est pas la même chose. Parce que moi, c'est un sujet. Moi, le truc, je l'ai déjà dans ma tête et
Ok,
c'est du, tu
tu
sais, c'est
dois te
du
poser
savoir
écrire.
scientifique, en fait. Ça veut dire que c'est pas
Ouais.
comme si le c'est pas comme si je pouvais le peaufiner. Tout ce
Ouais.
que j'ai besoin de dire et tout ce que j'ai besoin d'écrire, ce sont des connaissances.
Ouais,
On
ok,
est
donc.
sur de l'empirique, on est sur du scientifique. Donc là, c'est même pas des théories un
Ok.
peu littérature ou philosophique. Là, c'est des trucs qui sont arrivés dans la vraie vie. Ça y est, écrit, tu vois.
Ok. Bah ouais, enfin en vrai, je pense que toi tu sais, mais en tout cas pour les gens qui ont du mal à se lancer dans ces trucs-là, parce que moi-même j'avais du mal à me lancer dans un autre truc là, c'est vraiment comme tu as dit de faire le squelette très grossier, des grandes lignes, en fait vraiment système de l'entonnoir, parce que là j'écrivais un livre et j'y arrivais pas à m'y mettre parce que je me disais c'est trop gros. Non, déjà on part du début. Comme ça je te raconte ma vie, parce qu'en plus même toi je crois que je t'ai pas raconté. Je voulais faire un projet de concept store, donc e-concept store en ligne. Et je voulais que ce projet-là regroupe tous mes livres, donc le livre que j'ai déjà écrit, les livres que j'allais écrire, etc. Et
Génial.
potentiellement des concepts divers et variés qui tournent au carrefour de tout ce que j'aime, tu vois, la spiritualité, le lifestyle, le développement personnel et tout. Donc pourquoi pas, tu vois, créer ma propre méthode d'organisation et la faire en papeterie, même, je sais pas, n'importe quoi, genre un tote bag, mais parce que genre j'aurais kiffé le visuel et que je l'aurais créé et que c'est
Bah
un truc
oui.
qui me présente. Voilà, tu vois,
Ouais.
vraiment un e-concept store avec des webinaires, enfin plein de trucs, tu vois. Mais quand moi je me dis ça, mais je me dis, mais en fait, le matin, quand je me pose devant mon ordi, je dis d'accord, bah moi j'ai jamais créé ça en fait,
Ouais.
il y
Bah
a trop
oui.
d'informations.
Bah ouais.
Et de là, je me dis, il me faut une deadline. Et je me dis, bah, un des livres que je veux écrire, c'est un livre pour le Ramadan. Avec un concept derrière, etc. Donc, je me dis, OK, donc je pense que le premier truc que tu dois faire, c'est que là, le Ramadan, c'était dans 7 mois à l'époque. Donc là, il y a, je sais pas, 2 mois. Je me dis, c'est dans 7 mois le Ramadan. Donc, ton premier step, c'est ça. Le reste derrière, ça, tu le verras après.
Exactement,
D'accord.
exactement de fou. Ouais. Non, mais
Mets
c'est
dans
vraiment,
ton
mais
livre.
tu sais que c'est vraiment, mais tu sais que c'est vraiment
Ouais.
ça qui marche. J'ai dans mes patients, il y a souvent des. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'en fait, on anticipe trop. Et du coup, vu qu'on anticipe, on voit le truc en gros. Et c'est normal, comme je t'ai dit, ça nous tient à cœur. Du coup, par exemple, moi, mon livre, je suis vraiment en mode, bah, c'est un big deal. Genre, moi,
Ouais.
je m'imaginais, mais tu vas rigoler, je m'imaginais la soirée de lancement du livre.
Ouais.
Je me disais, purée, la soirée de lancement, j'inviterai qui et tout. Mais qui est-ce que tu me racontes? Le livre, il n'est même pas écrit, tu vois. Et donc, après, je me suis dit, OK, là, on revient. Là, on revient à la
J'aime
réalité,
trop.
qui est qu'il faut juste écrire l'introduction. Et ensuite, tu écris juste le
Exactement.
premier chapitre. Et c'est ce que je fais
Exactement.
avec tous mes patients. Quand ils anticipent trop leur truc, je leur dis,
Voilà.
mais qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu te vois dans un an? Là, c'est pas à la humaine de maintenant de gérer la soirée de lancement. C'est à la humaine de dans 2, 3 ans, enfin, peu importe quand ça sortira, tu vois. La humaine de maintenant, elle doit juste gérer la première étape de son projet. Et c'est
Ouais.
exactement ça, c'est la Anya de maintenant, elle doit juste gérer le, bon bah ok, bah genre je sais pas, la conceptualisation, tu vois,
Exactement.
la petite DA,
Le
le...
sommaire. Genre, en gros, c'était ça.
Oui,
Moi, j'étais en
c'est ça.
mode, j'ouvre mon drive. Là, le but, c'est d'avoir mes chapitres, tu vois, écrits en mode le squelette du livre. Et quand j'aurai fait ça, là, je pourrais écrire chaque chapitre les uns après les autres, tu vois.
Exactement, ouais.
Mais oui, c'est ça. Et en fait, quand quelque chose nous paraît trop gros, on peut pas passer à l'action. Et c'est pareil pour tout le monde, en fait, les gens, quand ils me disent, mais comment tu réussis à intégrer des nouvelles habitudes et tout, Bah bien sûr que du jour au lendemain, je sais pas, tu peux pas regarder le Insta d'une fit girl et te dire je veux ce corps, tu vois, par exemple,
Ouais.
un corps qui n'a rien à voir avec le tien. Bah non, tu vas te dire le premier step, c'est d'aller déjà m'inscrire à la salle de sport, découvrir les machines.
Mais oui, mais oui, mais oui. Après, je pense un truc à dire là-dedans, c'est qu'il faut pas être dans l'idéalisation des autres, tu vois. Parce que moi, j'ai parlé des gens sur YouTube, etc. Mais moi, je suis jamais dans le truc de oh mon Dieu, ils sont hyper loin. Justement,
Ouais,
c'est qu'en fait, nous, tout nous paraît accessible.
totalement.
Tout nous paraît accessible. Et moi, ça, je le vois beaucoup, beaucoup en consultation, des gens qui me parlent de telle personne sur Insta. Et franchement, il y en a qui me parlent de toi. Et tu vois, il y a un truc d'idéalisation de mais c'est tellement chaud, genre ça me paraît tellement inaccessible. Mais moi, je sais la réalité, qui est que c'est accessible à tout le monde. Et en plus, je te connais. Donc, je sais encore plus que, ben, en fait, de base, c'était pas comme ça. Tu vois, ça a
Exactement.
évolué avec le temps,
Exactement.
etc. Donc, je pense qu'il faut pas
Exactement.
aussi qu'on idéalise les autres et qu'on se dise qu'en fait, eux, ils sont grave loin de nous, parce que pas du tout.
Ouais. Mais totalement en fait, parce que justement, je parlais à une copine à moi qui avait du mal à se motiver et tout, et je lui disais, et il faut pas que tu te dises, non, mais moi, je suis pas Anya, je peux pas le faire. Je lui dis, je suis un humain normal, comme tous les humains normaux, et un jour, en fait, on s'est juste lancé dans un truc qui a amené un autre truc, et petit à petit, voilà, par ruissellement, mais de ouf.
Bah ouais.
Mais. Justement, tu vois, dans ça, parce que bah, du coup, les autres, parfois, ont du mal, mais comment toi, t'as fait pour te lancer au début dans tes projets, je pense, hors psycho, parce que, enfin, hors psycho en tant que psychologue, parce qu'on va dire que ça, c'est ta formation, tu te lances, etc., mais dans le reste. En gros, tu vois, vu que ça semble inaccessible, que ça semble compliqué, bah, voilà, comment t'as fait face à ces difficultés-là et tout?
Bah, en vrai, c'est vrai que moi, en fait, ça a toujours été très fluide. Ça veut dire que je ne me suis jamais posé la question de tel ou tel projet. Bah, après, c'est beaucoup des conférences, tu vois, mais par rapport aux conférences, par exemple, en fait, je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je vais me lancer dans ça? On me propose, c'est une proposition à laquelle je ne pouvais pas dire non. C'était
Ouais.
un enjeu trop important. La thématique me prenait trop à cœur. Donc, en fait, j'ai dit oui, mais genre, c'était vraiment un oui hyper innocent. En fait, je ne savais pas ce que ça comportait derrière. Déjà, je ne savais même pas qu'il y aurait genre une centaine de personnes à la conférence, parce que je ne connais personne à Strasbourg. Je suis vraiment partie, j'ai pris mon petit sac à dos. Je suis
Et
partie.
t'as pas stressé ou tu sais, syndrome de
Oui, c'est
l'imposteur
hyper
ou
stressant.
ouais.
Après, il y a le syndrome de l'imposteur, mais ce qui est bien, c'est que moi, je suis psy. Donc, en fait, quand il y a des trucs comme ça, je sais à peu près enfin, ce que je dois me dire, ce sur quoi je dois travailler. Donc, j'ai réussi à travailler ça. Donc, le syndrome de l'imposteur, ça va, je trouve que ça se travaille avec le temps. Ce qui m'aide, c'est de me dire qu'il y a des gens qui. C'est pas. Enfin, je le dis pas d'un ton méprisant ou autre, mais il y a des gens qui font moins et qui n'ont pas ce syndrome de l'imposteur. Et moi, me dire ça m'aide.
Oui.
Je me dis, mais eux, ils se sentent hyper
Totalement.
à leur place, alors que
Oui.
c'est pas leur maximum de. Enfin, c'est pas leur potentiel plus, tu vois. Pourquoi moi, je me sentirais pas à ma place alors que bah, ce que je fais, j'aime bien et je
Oui.
pense connaître, tu vois. C'est pas comme si j'avais pas le statut de psychologue. J'ai quand même le statut de psychologue. Je sais ce sur quoi j'interviens, etc. Donc en fait, ça a toujours été juste j'accepte des projets. En fait, par exemple, j'ai fait le TEDx. Bah, en
Ouais.
fait, on m'a envoyé un message. J'ai dit oui.
Tu sais, en fait, c'est ça. En gros, tu saisis les opportunités et
Ouais.
voilà, tu fermes pas la porte et tout.
Ouais, exactement. Et après, bah, en fait, au fur et à mesure des trucs, en découle justement mes propres projets, qui sont bien évidemment beaucoup plus minimes, tu vois. Mais même, après, moi, c'est vrai que j'ai un peu le syndrome de commencer des trucs et de pas les finir, parce que je sais pas pourquoi. Genre, par exemple, les live Twitch, tu vois, j'ai commencé. Et moi, c'est mon kiff ultime de faire de la vulgarisation en parlant, en improvisant, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu ce truc de je commence, je finis pas, mais pas par. Comment dire, c'est jamais une fin en soi. En fait, moi, dans ma ligne édito de mes réseaux sociaux, c'est vraiment tout est ouvert. Ça veut dire demain, j'ai envie de reprendre, de faire un Twitch, j'en fais un. Après demain, j'ai envie de refaire 1 million de podcasts, j'en fais. Et ensuite, j'ai envie de me refaire un article, tu vois, j'en fais. C'est juste, bah, en fait, je le fais quand ça fait sens pour moi. Tu vois ce que je
Exactement.
veux dire? Mais donc, ouais, moi, je me suis jamais mis de charge sur ça, jamais mise, pardon, de charge mentale sur ça. Et ça a toujours été juste, j'accepte des propositions, en fait. Et
Ouais.
j'acceptais, bah, ça me motivait à faire plein d'autres choses. Et après, bah, au fur et à mesure, tu sais, les gens te connaissent un peu plus, tu as un petit peu un nom dans le truc. Et en plus, bah, le domaine des psys, il est hyper petit. Donc en fait, j'ai déjà contacté des gens pour des projets, je crois que je t'en avais déjà parlé. Et la personne m'a dit, ah bah, j'ai déjà entendu ton nom. Et j'étais en mode, waouh! Alors que
Non.
c'était enfin quelqu'un que tu vois, j'étais
Ouais,
vraiment
c'était un
le haut,
mastodonte quand même dans
mais
son
oui!
délire. Bah oui.
C'était le haut de ce que je voulais faire et tout. Et
Ouais.
j'étais vraiment en mode waouh. Parce qu'en fait, bah, le monde, finalement, il est petit. Et en fait, comme tu as dit, les montagnes, elles sont faites de petites pierres. Donc en fait, il faut commencer quelque part, tu vois.
Ouais, totalement.
Et
Mais
toi?
justement, et moi quoi?
Et toi, comment t'as fait justement pour réussir à te lancer sans voir ce truc-là de waouh, obstacle énorme? Parce que t'as parlé de livres, t'as parlé de e-concept, enfin, il y a quand même pas mal de choses, tu vois. Même moi, je trouve, même tes voyages, parce que même si ton voyage c'est un truc un peu perso, t'arrives quand même à faire du contenu dessus, et je trouve que c'est quand même énorme, parce que le contenu sur les voyages, il y en a, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu comme tu as dit, et je trouve que ça, c'est trop, trop important. Le truc de on se met pas de pression, on commence des choses, ça veut pas dire que il faut les faire toute sa vie, ça veut pas dire qu'on doit être méga rigoureuse dessus, parce qu'il faut quand même faire ce qui nous fait kiffer. Et il y a plein, plein de gens qui me suivent sur les réseaux qui kiffent justement ça, parce que ça leur permet de tester des trucs, de se dire que voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contrat. Et du coup, toutes les difficultés que je voyais, je sais pas, par exemple, la logistique Twitch, franchement, pour moi, elle est horrible. Genre, je dois brancher ma caméra, je dois brancher mon micro, je dois mettre OBS, je dois lancer le truc, je dois. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses. Mais quand je me suis lancée, bah, en fait, je vois pas tout ça parce que je me dis, je fais pas. En fait, rien ne m'y oblige, je le fais comme tu as dit, au feeling. Donc, ça, c'est un petit peu, tu vois, les freins. Je crois en marketing, ça s'appelle les barrières à l'entrée, là, quand tu es une marque et que tu veux rentrer dans le marché. Bah, c'est ça, genre, toutes les barrières à l'entrée. Je suis en mode, ok, c'est pas grave, je teste et il n'y a que comme ça que je pourrais voir si j'aime. Et puis sur la durée, genre, je me mets pas de pression. Je pense que c'est pareil pour tout le contenu, pour les voyages, pour mes projets et tout. Je sais pas, par exemple, j'en parle souvent, la location de robe que je fais pour les événements, les mariages, etc. Je me suis jamais dit que ça allait durer longtemps. Je me suis toujours dit que j'allais faire ça une saison, que ça avait vocation à durer, voilà, jusqu'à fin 2023. Et pourquoi? Parce que, bah, en fait, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer sur le long terme.
Bah
Moi, ce qui m'intéressait, c'était le projet, les compétences que j'allais, voilà, avoir, le shooting, le branding, les compétences en marketing, enfin, plein de choses comme ça. Et en fait, se dire que les choses n'ont pas vocation forcément à durer des années,
oui.
à être complètement stable et tout, bah moi, ça me motive parce que comme je suis une personne qui me lasse beaucoup, qui a besoin de passer de chose en chose et tout, bah je suis en mode, ok, tranquille, genre, t'as le droit de tester des choses, t'as le droit de te lancer dans des trucs, et le reste, c'est rien. Donc, je pense que, ouais, c'est ça. Et la question que je voulais te poser, ouais, parce que ça a été une... C'est pas une de mes difficultés, mais en tout cas, c'est la difficulté qui revient le plus quand on a des projets divers et variés. C'est la solitude, tu vois. Dans le truc où toi, t'es motivée un peu toute seule, t'es dans ton délire un peu toute seule, tu sais exactement où tu vas et ce qui t'anime, mais t'as pas forcément de gens avec qui en parler, de gens avec qui te motiver, et t'as pas forcément de motivation de ton entourage ou de gens que, voilà. Donc, il y a ça aussi qui, moi, ce que je me disais par rapport à ça, c'était, tu fais les choses pour toi, genre, fais-toi kiffer. Ça prend, ça prend, ça prend pas, ça va bah, tranquille. Et puis si les gens te soutiennent, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave. Mais je sais que ça peut être mal vécu, tu vois.
Bah oui, bien sûr. Non, je pense que c'est difficile déjà quand on se lance en tant que psy. Du coup, tu es un libéral. Enfin, pour le coup, moi, j'étais un libéral. Et là, tu es vraiment toute seule. Donc, ça, c'est difficile. Ce qui a été ma facilité, c'est qu'en fait, j'avais quand même. Alors, déjà, j'ai vite fait une formation. Bon, je me suis formée à la TCC encore plus. Du coup, tu es quand même accompagnée. Parce que tu as des profs, tu as tes collègues qui sont psychiatres, médecins, psychologues. Donc, au niveau de la pratique de psychologue, ça va. Parce que j'avais quand même mes groupes WhatsApp. Il y a pas mal de groupes WhatsApp aussi de, tu sais, psychologues femmes, musulmanes, etc., qui t'aident. J'ai tellement été aidée. Donc, pour ma pratique vraiment de psychologue, j'ai aussi ma copine Shaima qui est psychologue. Donc, en fait, on s'entraidait tout le temps, tu vois. On a besoin de se voir pour des cas ou autres, pour de la supervision. On s'appelle, etc. Donc, pour ma pratique de psychologue, ça a été.
Ça va,
Par
ok.
contre, c'est vrai que pour les projets à côté, c'est toujours difficile parce qu'en fait, il n'y a jamais vraiment personne qui te comprend à 100%. Il y a toujours des personnes qui vont te comprendre à un certain niveau. Je pense que toi et moi, par exemple, on se comprend beaucoup dans nos projets. Et c'est pour ça que je crois que tu es la seule à qui je parle vraiment tout le temps de mes projets, etc. Mais par contre, il n'y a personne qui te comprend, à part si tu trouves vraiment des gens qui sont tes clones. Et moi, j'avoue, j'ai un peu de mal avec ça. Tu vois, j'aime bien qu'on ait chacune notre fibre. Et d'ailleurs, on a déjà parlé un jour du fait que, bah, en fait, moi, parfois, ça pouvait me saouler qu'en fait, les gens nous mettent un peu dans la même case, tu vois. Imène et Anya, Imène et Anya, etc.
Ouais,
On fait deux trucs qui sont totalement
c'est ça.
différents.
En fait, on
Pour
est
moi, ça n'a
animé par la
aucun
même
rapport.
vision, mais en fait, on est animé par la même forme et le fond.
Mais le fond, c'est totalement différent. Bah après, c'est le truc qui se ressemble, enfin, qui se ressemble, c'est vraiment qu'on est deux femmes maghrébines. Voilà, point final.
C'est ça.
Mais sinon, et donc, ouais, moi, j'ai un peu du mal avec ça, mais je pense qu'il faut
J'ai
quand même.
dit la fois où on m'a dit en DM, il est où ton Doctolib pour prendre
Oh
rendez-vous?
là là, non mais s'il te plaît.
En mode chez toi?
Ouais, non mais vraiment. me NB de petits points, on n'est pas les mêmes personnes et je ne suis
Ouais.
pas restée sans Dania en même temps.
Ouais. Ah oui,
Moi qui
aussi.
me font
Et toi
passer des
aussi, c'est
messages
vrai.
en mode oui, est-ce que tu peux dire Ania? Je ne dis rien à Ania. Ania a son propre Instagram, elle a son mail, vous la contactez
Ah,
dessus.
c'est drôle.
Non, mais bref, du coup, pour continuer, ouais, il y a quand même une solitude qui s'installe. Je pense qu'il faut s'entourer. J'ai déjà parlé un peu sur Insta très rapidement de l'éloge un peu qu'on fait de la solitude. Moi, je ne suis pas trop fan de ça parce que je suis psychologue et je vois qu'il y a des limites en fait à la solitude. Moi, je suis hyper introvertie. Tu le sais, ça m'a déjà coûté des amitiés. Je suis très introvertie. Donc, j'ai besoin d'un gros moment de ma semaine seule. Mais l'humain est un être solitaire. Je ne sais plus c'est quoi la citation. Donc pour moi, on a quand même besoin de s'entourer. Par contre, je trouve que quand tu commences les réseaux sociaux, il y a un truc qui se crée. Il y a un peu personne qui te soutient dans la vraie vie. Par contre, genre en DM et tout, il faut un peu genre.
Ok, en gros, on va te
En
dire, ah,
gros,
ça, trop bien.
ah trop bien, haha, ici, vas-y, tu devrais continuer. Mais personne qui partage, personne qui. Alors qu'il faut bien commencer quelque part en fait, tu vois. Donc si mes amis ne partagent pas, comment
Ça
voulez-vous que je
démarre pas,
le
bien
fasse?
sûr.
Bah oui. Et
Ouais.
donc, ouais, je trouve qu'il y a un peu de ce truc de, bah en fait, c'est normal, mais quand on commence, bah on a vite l'impression que ça fait un peu pitié, tu vois. Parce que, bah, t'as pas beaucoup d'abonnés, tu fais un peu ça dans le vent, et s'il y a personne qui te soutient, ça peut vite être, je trouve, di difficile, en fait.
Totalement. Ouais, c'est vrai,
Et
hein.
donc, ouais, moi, j'avais vraiment un grand manque de soutien, déjà de par ma famille, parce qu'elle comprenait pas. Donc, par exemple, mes parents ne comprennent pas l'impact en fait des réseaux sociaux. Je pense que maintenant ils le voient, tu vois, quand hein, ils voient que leurs filles font un
Un
TEDx,
fixe et
etc.
tout, ouais.
Là, ils comprennent un peu plus, mais sur le moment, bien évidemment, tu comprends pas. Et puis, c'est pas un manque de soutien, c'est juste un manque de compréhension, tu vois. Voilà. Mais sinon, ouais, de la part de mes amis, c'est vrai que j'avais pas énormément de soutien. Si ce n'est le, si, en vrai, si ce n'est le tien, c'est pas pour faire semblant. De toute façon, on n'est pas trop dans les compliments
Je
ensemble.
suis une amie en or. Hashtag
Mais pour
real
de
friendship.
mais pour de vrai, genre tu partageais des trucs alors que tu sais, bah au début en plus on avait le même nombre d'abonnés donc en fait on se soutenait mais genre un peu
Totalement.
dans le vent parce qu'en plus nos abonnés c'était un peu les mêmes.
Totalement.
Mais donc voilà, après je pense que par rapport à ça, il faut qu'on réussisse à s'entourer des bonnes personnes. Moi je t'avais toi, j'avais quand même bah malgré tout ma famille en fait, j'avais mon frère et ma sœur qui ont toujours partagé tout ce que je faisais alors qu'ils sont privés, tu vois.
Ouais.
Mais bah ça aide. Ça aide d'avoir des gens à qui tu peux en parler. Et au fur et à mesure de ta vie, bon, bah voilà, tu t'entoures encore plus, etc. Donc là, j'ai toujours des gens à qui en parler, que ce soit mon fiancé, toi ou ma famille. Bah en fait, il y a toujours des gens à qui tu peux raconter ce que tu fais, à qui tu peux parler de tes projets sur le court, moyen, long terme. Et je trouve qu'en vrai, ça aide, tu vois.
Ouais, bah non, mais totalement, c'est ça. Et on va dire, j'ai deux sons de cloche dans ma tête. Il y a le truc où je pense que vraiment les gens, bon. Le non-partage au début, je ne le comprends pas trop parce que ça se voit qu'on a besoin de soutien et ça coûte
Ah oui.
absolument rien
Bah oui.
de partager, même si on ne veut pas partager, parce que je sais pas, on n'a pas envie de mettre beaucoup de choses dans sa story, un com, un like, tu vois, ça coûte rien du tout. Et après, j'ai ce truc-là de me dire, quand on commence à avoir peut-être plus d'abonnés, je crois que les gens pensent vraiment qu'on n'a plus besoin de soutien. Genre, ils se disent, mais c'est bon, elle a déjà sa fanbase, elle a déjà plus de 30 000 abonnés.
Bah oui.
Là, je pense inconsciemment, ils se disent, c'est pas moi avec mes 200 abonnés qui va changer quelque chose. Alors qu'au final, c'est vraiment à ce moment-là, quand ça fait, je pense, toi et moi, je sais pas, ça doit faire peut-être 2-3 ans qu'on est sur les réseaux sociaux et tout. Bah justement, c'est à ce moment-là qu'on a le besoin de plus de motivation, on a moins la fougue du début, ça s'essouffle un peu, tu vois, parfois. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin que nos proches nous disent, non mais vas-y, genre, continue, c'est archi bien et on continue à nous motiver à voilà. Et ouais, je pense que peut-être il y a une non-prise au sérieux du sujet. Parce que peut-être que si c'était des projets peut-être plus real life et tout, bah, je sais pas, peut-être qu'il y aurait des gens qui seraient en mode ouais, t'as besoin d'aide pour ça ou ci ou ça. Mais peut-être que comme c'est les réseaux, bah, ils se disent mais les réseaux c'est fictif, tu vois, c'est virtuel, ils ont besoin de partage pourquoi, d'aide pourquoi et tout. Et je trouve ça dommage parce que aussi bien toi que moi, nos objectifs sur les réseaux, ils sont quand même assez nobles, ils sont assez positifs et tout. Donc, ce n'est pas des réseaux pour des réseaux. En gros, je ne demande pas qu'on partage, tu vois, un truc inutile. En gros, c'est parce que la visée derrière, elle a un objectif. Donc, eux aident à la visibilité de cet objectif-là, tu vois.
Bah oui.
Donc, c'est ça, ouais, que j'ai du mal à comprendre. Genre, j'ai du mal à comprendre le fait que ça soit tellement simple, gratuit, pas du tout chronophage, mais qu'on ne le fasse pas, tu vois. Et je sais que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de filles de mon entourage. Et il y a un truc que j'ai remarqué, je le dis souvent à des personnes que je ne connais pas sur les réseaux, telles me disent, Anya, ton podcast, je l'ai envoyé à toute ma famille. Il n'y a pas une seule personne que je ne connais pas, à qui je n'ai pas dit d'écouter tel épisode. Il est incroyable. Ton livre, je l'ai acheté à toutes mes copines et tout. À chaque fois, je leur dis, mais j'ai plus de soutien d'une inconnue que de quelques personnes que... Parce que je ne vais pas mentir, il y a plein de gens qui me soutiennent dans mon entourage, tu vois. Et peut-être si vous écoutez ça, bah, vous ne sentez pas du tout visé par ce que je dis. Mais les autres personnes, je suis en mode, j'ai plus de soutien d'une inconnue que d'une personne qui est archi proche de moi. Et je trouve ça fou, quoi. Enfin...
Mais ouais. Et en plus, c'est du vrai soutien pour le coup, tu vois. C'est réellement du j'envoie le truc et tout. Et toi, de ton côté, comment tu l'as vécu cette solitude? Et surtout, comment tu l'as vécu? Parce qu'il y a la solitude du début, de j'essaye d'être sur les réseaux sociaux, j'essaye de me faire un nom. Et il y a l'après de bah, j'ai réussi. J'ai réussi entre gros guillemets, tu vois. On n'a jamais vraiment réussi. Parce qu'on a toujours des objectifs un peu plus grands, mais il y a un truc de bah, tu deviens plus connu, tu te fais vraiment un nom, on t'invite à des trucs, etc. Je pense qu'il y a un après-coup à ça, non?
Ouais, bah au tout début, je pense que c'est super facile parce que justement, en fait, comme on ne crée pas, en tout cas moi dans les réseaux sociaux, j'ai toujours partagé, tu vois, que j'ai eu un compte en privé avec 100 abonnés et puis après 1000 en public et puis voilà, ça a continué. Du coup, j'étais peut-être pas dans cette logique de je produis pour que ça soit partagé, je produisais un petit peu pour moi et tout. Donc, je pense qu'au début, je l'ai bien vécu. Et puis voilà, ça augmente, ça augmente. Et je pense qu'avec le temps, vu que tu prends beaucoup plus de temps à produire des contenus, que tu essayes d'être dans une logique où tu as envie d'en faire ton taf, que tes copines, elles le savent, que tu vois, tu as plein de projets qui sont sous-jacents à ça et tout, tu rentres un peu. Ouais, dans une, enfin, en fait, dans une solitude, j'aurais même pas le mot pour l'expliquer, mais c'est, en fait, c'est de l'incompréhension, c'est en fait, et c'est de l'incompréhension, et c'est aussi, voilà, de la déception, voilà, c'est ça le mot, et aussi quand toi, t'es tout le contraire, que t'es une personne qui valorise, qui partage de ouf, sans qu'on demande rien et tout, tu te dis, mais attends, moi, je comprends pas, j'ai toujours donné de la force. Des trucs que des gens parfois ont commencé et le lendemain ils ont arrêté, tu vois. Ça veut dire toi t'as donné de la force à un projet qui a duré 2 jours et toi t'es dans une logique et tout, et c'est pas faute, parce que tu vois il y a aussi le bon soupçon derrière où je me dis, comme t'as dit, nos parents connaissent pas l'impact des réseaux sociaux, les gens se disent, les gens ont leur vie, donc je comprends, ils sont dans leur truc, dans leur semaine, et ils se disent pas tous les jours, oh, faut que je commente, faut que je partage et tout. Mais quand justement tu fais l'exercice et tu dis, allez, je vais demander, tu vois, comme ça, parce que c'est mes potes, il n'y a pas de tabou, tu vois, il y a pas de, moi j'ai pas de gêne à dire à mes copines, à partager, regarder mon nouveau réel et tout, à les commenter, genre donner de la force et tout. Quand tu vois que tu fais ça et que sur 30 personnes il y en a une seule qui va le faire, t'es en mode, mais ça vous coûtait, enfin ça coûte rien en fait, pour moi c'est trop d'épreuves d'amour,
ça prend une seconde, tu vois, il n'y a pas le temps, t'as regardé ma story donc tu l'as vu.
Mais totalement, en fait, c'est ça. Et du coup, c'est juste, ouais, c'est un peu, c'est de la déception. Et tu te dis, bah, j'ai plus envie, du coup, d'être aussi gentille parfois. Je suis en mode, bah, pourquoi moi, je partagerais, tu vois. Et en plus, il y a ce jeu-là, un peu, des abonnés qui est inconscient, où je me dis, mais attends, moi, je partage des trucs. Et j'ai 38 000 abonnés. Et vous, je vous demande juste de partager. Vous avez 100 abonnés, en gros.
Bah oui.
Genre, après, ça fait pitié de dire ça. Mais c'est en mode, moi, je partage
vos trucs. L'impact, il est
énormément de visibilité. Et que. C'est mon outil de travail, donc tu vois, par exemple, j'ai des collaborations, bah, en fait, ma semaine, elle peut vite ressembler à un catalogue, si je partage tous les projets de mes copines, tous les trucs et tout, mais pour autant, je suis en mode, non, c'est pas grave, je m'en fous, genre, ça me coûte rien, il va rien se passer si je partage, donc je continue à partager et tout, et quand je vois qu'il n'y a pas de retour, bah, j'en attends pas forcément, c'est juste en mode, ok.
Oui. Bah après, je pense qu'il est important à dire, c'est qu'en fait, on n'attend pas ce retour-là, tu vois. Bon, moi, c'est pas comme si on demandait beaucoup de partager des trucs, mais on n'attend pas de retour, on n'attend pas le soutien parce qu'on soutient nos amis.
C'est non, juste, ouais, rien à voir.
Même, c'est quand même absurde quand on voit l'absence de retour. Et par contre, là, on en parle depuis quelques minutes, mais en vrai, ça prend pas une partie énorme de notre quotidien. Enfin, on n'est pas au bout de notre vie le soir.
Non, oui, pas du tout.
Personne n'a pas commenté, quoi. On s'en fiche dans le... On s'en fiche dans la vraie vie. C'est juste que je pense que c'est important de le dire dans ce truc-là, de se lancer dans nos projets pro, enfin dans nos projets, pardon, qu'il n'y aura pas forcément un soutien énorme, mais que ça ne veut pas dire que c'est nul ou ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, en fait.
C'est ça.
Tant que nous, on se soutient nous-mêmes et que ça fait sens dans notre cheminement de vie, il faut aller jusqu'au bout. Même si ta famille ne te soutient pas, même si des amis ne te soutiennent pas, ça ne veut pas dire que ça ne le... enfin, ça mérite pas.
Ça mérite pas. Mais c'est ça, parce que moi, j'ai pas du tout été touchée par ça jusqu'au moment où justement des personnes qui avaient leur projet et qui avaient pas de soutien sont venues m'en parler, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. En gros, il venait me dire, ouais, s'il te plaît, Agnès, que tu peux partager parce qu'il n'y a personne qui partage. Mais des inconnus, hein, tu vois, des gens qui me suivent. Ils me disent, Agnès, tu me motives toujours. Regarde, là, j'ai sorti un livre. Genre, il n'y a aucune de mes copines qui l'a acheté. Il n'y a aucune de mes copines parce qu'elles s'en. Par exemple, je sais pas, elles s'en fichent de la littérature. Donc voilà, etc. Et en fait, je
Et
me suis dit,
après, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre le truc de on soutient pas parce qu'on capte pas le truc. Mais le soutien pour moi, enfin, moi, je soutiens mes amis, quoi qu'elle fasse, ça
inconditionnel,
fait
je jure.
un vieux projet. Genre, même moi, j'y crois pas. Je vais la soutenir parce que c'est ma copine. Il y a une certaine loyauté à avoir dans nos amis. Et même, imaginons que demain, je sorte un livre de poésie et mes copines, j'ai plein d'amis qui sont pas dans la poésie. Je pense qu'il y en a plein qui vont l'acheter quand même, tu vois.
Bien sûr,
Parce qu'il y a un soutien de.
bien sûr.
Qu'il soit matériel ou qu'il soit juste, ah bah je suis ton ami, je te soutiens, même si bah je comprends pas le truc, tu vois, c'est pas
C'est
grave.
ça. Mais totalement. J'ai des gens qui ne. J'ai des gars qui ne lisaient pas du tout de poésie, des potes à moi qui sont venus me dire, je te vire l'argent pour acheter un livre, offre-le. Genre,
Non,
offre-le à
mais
quelqu'un.
c'est trop
Tu
gentil. C'est trop gentil.
Genre, non, il y a des gens, s'ils veulent aider, ils ont de l'inspi. Et puis comme on dit, bah, il y a toujours le partage, les trucs. Mes parents m'ont acheté mes livres, ils ont toujours des livres avec eux. Dès qu'il y a quelqu'un qui voit, bah, ils essayent genre de le refourguer à quelqu'un et tout, alors
Mais
que
oui,
je pense qu'ils ne l'ont pas lu.
quand j'ai
Genre.
lancé ma page Doctolib, ma mère l'a publiée sur son propre Facebook. J'ai dit, maman, est-ce que tu es au courant que je ne pourrais pas prendre tes amis en consultation? Elle dit, mais peu m'importe, il faut que je te soutienne en fait. Donc mes parents partagent tout, mais tout. Parfois, je reçois des messages de genre des oncles, des tantes et tout.
Ouais.
Ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais comment elles le savent? Bah,
Non, ils
c'est
sont au
mes parents
courant.
en fait, tu vois.
Mais
C'est leur propre soutien à eux. C'est comme ça qu'ils le montrent.
c'est ça.
Et
En fait, il y a une forme de preuve.
pareil pour mon frère et ma soeur. J'ai des amis. Enfin, mon frère, c'est quand même un homme. J'ai des amis à lui qui ont son âge, ils sont plus petits et qui regardent mes vidéos YouTube ou genre
Ouais.
qui aiment
C'est trop
mes
bien.
posts alors que ça ne fait pas sens pour eux et c'est normal. Mais c'est leur manière de montrer leur soutien, tu vois.
Puis après, il y a aussi, tu vois, les gens de l'ombre, par exemple, qui t'aident. Ça aussi, c'est une forme de soutien. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais
Sure.
moi, je sais que, par exemple, ma sœur, c'est une personne de qui je parle jamais, mais en gros, c'est vraiment, c'est mon manager de l'ombre. Genre, sans elle,
Bah
je
oui.
fais rien. Et voilà, c'est ça. En fait, il y a différents types de soutien, mais quand il y a quelqu'un qui est dans aucune case, je comprends, voilà, que des gens puissent être bah, un peu, tu vois, heurtés ou
Ouais.
qui aient besoin, en tout cas, de soutien d'autres personnes. Je comprends qu'on vienne me voir et qu'on me dise, ouais, Agnès, s'il te plaît, en gros, ou comment tu vis ça, parce que je le vis mal. Donc, c'est ça. En fait, il y a des gens qui le vivaient mal, et quand ils sont venus m'en parler, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai.
Bah ouais, c'est légitime, c'est légitime, je comprends.
C'est
Je
ça.
comprends.
Donc, ouais, je pense que c'est les plus grands freins en vrai. La motivation, la discipline, savoir où on va, pas trop se comparer aux autres de manière malsaine, s'inspirer des réussites des autres, se dire que même si, pour récap, hein, parce que j'aime bien les récaps,
Ouais, t'inquiète pas, moi
se
aussi.
dire que même si des personnes ne sont pas intéressées, que vous avez l'impression que quelque chose n'a pas grand intérêt pour les personnes de votre entourage, etc., faites-le si vous, ça vous fait kiffer. Si vous, ça vous intéresse, et les réseaux sociaux d'ailleurs servent à ça, il y aura une personne sur le globe qui sera peut-être intéressée par ce que vous faites, parce que les réseaux sociaux permettent justement de fédérer des communautés qui nous ressemblent, donc ça, c'est trop bien. Et voilà, genre juste, pensez pas à tout ça et essayez juste de
Ouais.
tracer votre route.
Ouais, c'est ça. Et tu sais, je me rappelle il y a quelques années, quand on parlait, on se disait, bah en fait, après moi, comme j'ai dit, c'est dans ma ligne éditoriale de rien faire en ce moment sur les réseaux sociaux parce que je suis prise par d'autres choses. Mais tu vois, on s'est toujours dit, en fait, même s'il y a une personne qui est intéressée par notre poste, une personne qui est intéressée par ce qu'on écrit, bah en fait, ce sera comme si c'était hyper réussi. Bah alors que concrètement, tu vois, on y met un temps. Mais vraiment monstre, moi sur mes articles, je passe beaucoup de temps à écrire, je passe beaucoup de temps à trouver des sources, j'y mets du temps comme si c'était un vrai exercice scientifique, alors que bah finalement ça ne l'est pas, tu vois, c'est publié sur mon propre site, mais voilà, c'est pour cet intérêt mais minime qu'on peut retrouver, et du coup ça me fait rire que bah, tu aies pu dire ça, et que bah, maintenant il y ait quand même un grand nombre de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Genre,
Ah oui.
je
Oui, c'est
trouve
vrai,
ça
c'est
trop
vrai.
drôle.
Mais c'est pour ça, hein, je pense qu'au début, la banalisation un peu et la minimisation, bah, elle aide de ouf parce que
Ouais.
justement, tu n'attends pas trop de résultats, mais tu te dis quand même, je fais au mieux, tu vois.
Ben
Genre, on perfectionne tout. Et on se dit, ouais, si on aide une personne, c'est bien. Et en vrai, ça a commencé comme ça, bah, je pense, pour nous deux. Hein, on reçoit un message d'une personne à qui ça fait du bien, que ça a aidé et tout. Et on est en mode, ah, bah, c'est grave motivant. Si cette personne-là, je peux la réaider, finalement, bah, il y a une
oui.
personne
Ben
de
oui.
trois personnes et tout.
Et ça, tu vois, ça, je trouve c'est important à dire, que ce soit dans nos propres amis ou même les autres qu'on suit et qu'on regarde, etc. Faut matérialiser le soutien, parce que bah, nous, en tout cas moi, je parle beaucoup des trucs négatifs sur les réseaux sociaux, puisque on a déjà reçu, tu vois, pas mal de critiques et tout. Bah, c'est normal, on est des femmes, on est maghrébines, enfin normal, toute proportion gardée, maghrébine, voilée, etc. Donc on reçoit quand même pas mal de critiques. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à contrebalancer. Et ça, je ne le dis pas dans le sens négatif, dans le truc de oui, personne le fait, etc. Si, justement, beaucoup de monde le fait. Mais je le dis dans le sens où il faut qu'on le fasse même nous-mêmes, tu vois. Je pense qu'on est des miroirs les uns pour les autres, et qu'en fait, on attire ce qu'on fait. Et du coup, moi, j'hésite grave à envoyer des messages à des gens que je kiffe et de dire, mais ta vidéo, elle était incroyable, alors que la personne n'avait jamais me calculé, tu vois.
Peut-être, ouais.
Il y a une fille, elle faisait des TikTok. Et
Ouais.
je sais plus, en plus, elle faisait des TikTok genre un peu bateau, tu vois, sur du maquillage et tout. J'ai envoyé un message en mode, purée, trop beau, tu te maquilles trop bien et tout. Et en fait, on a fini par parler, elle m'a parlé de sa vie, et elle a vu que j'étais psychologue, tu vois. Et donc, ça a créé un truc de, en fait, elle était hyper motivée par mon message. Et du coup, moi, par la suite, j'étais hyper motivée par ce qu'elle me disait, parce qu'elle a kiffé aussi mon cours et tout. Et donc, en fait, ça crée des vrais liens. Et je pense qu'il faut qu'on matérialise notre soutien, tu vois.
Ouais.
Moi, j'y pense pas toujours, et comme on a dit, on a nos vies, en fait, on est des
Non,
adultes,
bien sûr, bien sûr.
on a nos vies, donc c'est normal qu'on n'y pense pas tout le temps, mais dès que j'y pense, j'essaye de le faire, j'essaye d'aller sur les comptes des gens, enfin, de mes copines qui font des trucs, de commenter même des trucs bateaux, de publier, même d'envoyer en privé, hein. En plus, le plus de retours que je te fais, Agnès, c'est toujours en privé, toujours je te dis, purée, tel post, tel podcast, etc., incroyable, mais
Hier,
il faut
j'ai
qu'on matérialise.
trop aimé. Parce que tu as commenté mon post avec ton compte privé, ton compte public, et tu étais la seule à avoir commenté. Donc en gros, j'ai deux amies qui sont toutes les deux hymen. Voilà.
Mais moi, je fais toujours ça. Je fais toujours ça, tu sais.
Ouais.
Samia, elle a créé un nouveau compte de truc design. Je suis partie la follow avec mes deux comptes.
Ah, mais j'aime trop,
Comme
c'est trop
ça, on
gentil.
montre un vrai soutien. Le quantitatif, il est quand même important, on va pas se
Ouais. Mais non, la gratitude est trop, trop importante. Et d'ailleurs, tu sais, tu disais peut-être les gens ils vont jamais calculer ton message, mais tu connais quand on reçoit beaucoup de DM, en vrai, parfois on n'y répond pas, mais on ouvre très souvent les demandes. Tu vois, on
Ah
ouvre,
ouais?
on lit, et des fois, je te jure, j'ouvre, je souris, j'ai pas le temps de répondre, je vais fermer. Mais ça, tu vois, non, la gratitude c'est trop important, je pense. Même spirituellement, bah, ça a un grand impact.
Sûr.
Ça a un impact vraiment miroir, comme tu disais exactement. Quand Allah il nous demande de le remercier. Et que c'est très 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 valorisé de le remercier, bah, en fait je pense vraiment que bah, lui ça lui a... enfin, ça lui apporte pas grand chose à lui et que c'est vraiment à nous en fait.
Ouais,
C'est pas
exactement.
pour rien en vrai que le journaling existe, tu vois, les journaux de gratitude, les trucs comme ça et tout. Donc ouais, je pense vraiment que déjà pour nous ça fait beaucoup de... ça crée beaucoup de positifs, d'émulation très 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 impactante positivement, et pour l'autre mais c'est incroyable. Je n'aurais jamais pu, par exemple, j'ai enregistré donc là un épisode de podcast. Je te jure, c'est parce que bah, en 10 jours, j'avais reçu 2, 3 messages qui me disaient, Anya, ton podcast, il m'a trop aidé dans ça, il m'a trop aidé dans ça. J'aimerais trop que tu fasses des nouveaux épisodes. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, genre, c'est trop. Enfin, en fait, leur gratitude sur un sujet m'a reboosté à recréer, etc. Tu vois.
Et oui, il y a
Donc.
plein de fois où, je sais pas, j'ai eu envie d'arrêter Instagram, pas parce que je recevais trop de trucs négatifs, c'est juste que j'avais la flemme. Et la
Ouais.
flemme, parfois, prend le dessus de ma raison. Et je vais sur Instagram, et voilà, je passe moins. Et il y a toujours, mais alhamdoulilah, vraiment, il y a toujours eu une personne qui m'a envoyé un message pour me dire, oh, mais t'es passé où? Moi, j'aime bien ce que tu fais, ou purée, on te voit plus trop, alors que ça m'a trop aidé. Et je me rappelle, un jour, j'avais, enfin, là, la dernière fois, j'avais posté mon podcast, tu sais, qui dure. 30 minutes, enfin, pour qui tu te prends, et ça dure 30 minutes. Et je l'avais posté juste sur, tu sais, la plateforme Spotify, et je ne l'avais pas encore publié sur mon Instagram, parce qu'en fait, j'attendais 2-3 semaines avant de le faire, parce que je sais plus, je crois que c'était mon Instagram, mais je l'avais désactivé pour quelques temps. Et j'avais reçu un message d'une personne, donc qui me suit aussi sur mon privé, et qui m'avait dit, purée, ton podcast, trop bien. C'était le meilleur message de ma semaine, parce que je me
Oh
suis dit,
là.
elle l'a vu dans sa, je sais pas comment on appelle ça, TL.
Ouais, dans sa playlist en tout
Spotify,
cas, ouais.
et elle l'a écouté, et elle est venue me faire un retour alors que j'en ai
J'en ai
jamais
pas
parlé
parlé.
dans ce podcast, tu vois. Et j'étais en mode waouh, et ça m'avait tellement motivée à en refaire. Bon, apparemment pas assez, parce que j'en ai toujours
Ouais,
parlé,
mais bientôt,
mais
bientôt.
genre ça m'a motivée, tu
Bah
vois.
oui,
Le
et même
retour,
à le
le
partager et
retour,
tout, tu te
waouh.
dis, ok, ça a un sens. J'ai même pas partagé un truc, quelqu'un est parti l'écouter et a aimé. Donc quand je vais le partager, bah, enfin, ça a
Peut-être
un
qu'il y
sens,
a
quoi.
une autre personne ou
Ah
une autre,
ouais?
etc., tu vois.
Ouais,
Alors que
de...
parfois, dans notre entourage, je me rappelle que ce podcast-là, j'avais partagé d'abord à mon entourage, et ça n'avait pas trop fait sens, parce que ça n'avait pas trop parlé. c'est pas négatif.
Non,
Je
non, non.
n'attends pas à ce que mon taf soit apprécié de tous, c'est normal. Mais par contre, bah, ils n'avaient pas trouvé trop de sens, ils n'avaient pas hyper aimé. Par contre, bah, il y a d'autres gens qui ont, tu vois.
Ouais,
Je
ouais,
pense
ouais,
que
ouais.
chacun, enfin chaque truc qu'on fait, il va trouver sa cible.
Totalement. Mais c'est important, du coup, ouais, de renouveler en tout cas ces paroles-là, motivantes, gratifiantes et tout, de redonner le sourire en fait aux gens.
Oui.
Bah, ouais, c'est ça. Hein, parce que nous, on donne, mais bah, recevoir, ça fait toujours du bien,
Mais bien
quoi.
sûr, ça fait du bien, ben ouais.
Et en vrai, tu vois, on est souvent dans cette, dans cette, dans ce non, dans cette non, mathématisation
Ouais.
de ce qu'on fait, c'est-à-dire on va souvent dire, et en fait j'en parle là parce que je sais que des fois les gens ils ont ce tabou, tu vois,
Ouais.
on va dire on aide une personne c'est bien, voilà il y a une personne etc, mais en vrai quantitativement bah, ça fait toujours plaisir aussi quand on a plus de visibilité, quand un truc grandit,
Non, mais
quand
bien sûr.
ouais voilà, et quand on a bah, plus de soutien etc. En fait je dis ça pour dire aux autres il y aura jamais assez. Parce que tu vois, souvent les gens aussi se disent, non, mais c'est bon, en gros, on l'a déjà partagé, ou ils ont
Bah
déjà
oui, ça m'a pas
partagé,
changé en fait mon
voilà,
commentaire, ça m'a pas changé
exactement.
quoi,
Mais
ouais.
ça, c'est comme pour tout, comme pour l'activisme, comme pour toutes les causes, tu vois, d'inégalité, d'injustice dans le monde, etc. Bah, en fait, on a tous notre petit truc à apporter, il n'y aura
Mais
jamais
oui.
assez.
Mais
Donc,
oui.
y a ça aussi, il ne faut pas se dire que c'est assez, c'est jamais assez. Et si, en fait, chacun peut faire un truc, quoi. Et ça se trouve, comme tu as dit, ça va arriver au bon moment, tu vois. Au bon moment,
Exactement.
dans le bon timing, ok, peut-être tu as reçu 10 messages, mais t'étais super top. Donc ces messages-là, ils ont juste voilà, conservé le truc. Mais un jour, peut-être, comme tu as dit, tu as la flemme, tu es démotivé et tout, et tu reçois le message au bon moment, et franchement, bah, c'est ça en fait.
Exactement, exactement, exactement. Je
Tu pousses
valide.
quoi?
Je valide ce que tu dis.
Bah voilà, en tout cas, je sais pas si tu as d'autres choses à aborder, on a quand même bien fait le tour.
Ouais, je crois qu'on a fait le tour. On voulait surtout parler de tout ce qui est organisation, comment s'organiser, comment on vivait le côté plutôt personnel et plutôt mental de tout ça. Donc je crois qu'on en a pas mal parlé. J'essaie de faire le tour aussi dans ma tête.
Ouais,
Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai d'autres à dire? Non, je crois pas. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que du coup, bah, j'espère que tu vois ce petit podcast ou vidéo, peu importe la plateforme sur laquelle on le publiera, ce sera juste l'ouverture de notre contenu à deux, parce que je pense qu'en vrai, il y a des trucs à faire à deux.
non, mais tu sais,
Maintenant,
dans ma
plus que
tête,
les
j'ai
gens nous
rêvé qu'on faisait un
associent.
podcast à deux, en fait. Hein,
Mais faisons-le. Faisons-le. Moi, je dis oui à tout, comme tu as vu. Mais ouais, enfin, le but, c'est vraiment que ce soit notre ouverture de contenu à deux et qu'on arrête. Enfin, que, en tout cas, moi, parce que moi, je sais que je me bride beaucoup par rapport à mon perfectionnisme, enfin, que j'arrête de me brider. Pardon. Et en même temps, voilà, si ça plaît, tant mieux. Bah, si ça plaît pas, je pense que ça plaira au moins à une personne qui sera ma mère. Tu vois?
Mais oui.
Donc voilà.
J'ai deux trucs à dire. Attends, il y a le TEDx et
Ouais.
la première et l'autre chose, c'est le perfectionnisme. Parce que l'autre, tout à l'heure, tu as dit un truc très très intéressant qui était par rapport au syndrome de l'imposteur. Et ça aussi, je pense que c'est super important.
Ouais.
J'ai l'impression que quand on est très perfectionniste, on a souvent ce entre gros guillemets syndrome de l'imposteur. Enfin voilà, en tout cas, on pense qu'on n'est pas légitime ou en tout cas qu'on n'est jamais assez prêt. Et à contrario, comme tu as fait le parallèle, il y a des personnes qui sont moins qualifiées. Et donc là, je parle en termes très factuels. Je ne dis pas que voilà, on se comprend dans ce qu'on dit. Il y a des personnes qui sont moins qualifiées factuellement, que ce soit en termes de formation, en termes de diplôme, en termes d'expérience, etc. Et qui vont se lancer dans des choses que nous, on a du mal à engendrer, en fait, parce qu'on se croit
Exactement.
moins légitime. Et
Ouais.
ces personnes-là, bah moi, je trouve qu'elles sont très motivantes, justement. En gros, je vous dis à tous et à toutes, vous pouvez faire des choses. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas les compétences, comme vous le voyez, il y a des personnes qui se lancent sans. Et c'est grâce à ça que vous allez vous perfectionner, que vous allez commencer un truc qui est au début un peu erroné, un peu bâclé et tout. Et que voilà, ça va se
Bah oui.
perfectionner avec le temps, tu vois. Donc, il y a ça
Et on
aussi.
ne jette pas la pierre à ceux qui font ça, hein.
Ah non,
Justement,
pas du
c'est
tout.
de
Au
dire,
contraire.
en fait, on a tous notre place sur les réseaux sociaux, on a tous
Totalement.
notre place dans le contenu qu'on fait. Et je m'en rappelle, j'avais été à une conférence où, en fait, c'était un peu sur des sujets de thèse, etc. Et elles avaient dit, bah, en fait, qu'elles-mêmes, parfois, elles avaient ce syndrome de l'imposteur, alors qu'elles bah, sont docteurs, tu vois. Elles sont docteurs, ça veut dire que tu es hyper expérimenté dans ce que tu dis, ce que tu écris, etc. Parce que ça fait des années que tu travailles dessus. Et en fait, même elles, parfois, pouvaient avoir le syndrome de l'imposteur. Et ce qui les avait aidées, tu sais, c'est toujours des petites expériences comme ça. Et en fait, un jour, elles avaient fait une conférence où je ne sais plus c'était quoi. De toute façon, plus je vais faire du contenu, plus vous allez voir que mes sources, elles sont toujours erronées, toujours un peu floues. Mais ça va dans ma ligne édito. Mais bref, elles avaient fait une conférence et en fait, il y avait un homme qui était pas du tout expert du sujet et qui était hyper à l'aise dans ce qu'il avançait. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc horrible de se dire, mais en fait, la position qu'il prend, pour le coup, elle était vraiment pas légitime, parce qu'en fait, il contredisait un peu ce qu'elle, elle avançait. Mais en même temps, bah, la place, elle était là, il l'a prise,
Il
tu
l'a
sais.
prise.
Il l'a prise. Donc en fait, c'est à nous aussi de faire ce taf-là. On ne doit pas
Ouais.
attendre que quelqu'un nous pousse et qui nous ramène et qui nous dise, voilà, tu es légitime à faire ça. Il
Ah
faut que
oui.
la légitimité, on se la donne, en fait. Et il y en
Totalement.
a plein qui pensent aussi ça dans le négatif de, bah, cette personne, elle n'est pas assez légitime pour parler de ça. Mais qui es-tu, toi? Pour donner la légitimité aux autres, tu vois. Moi, je suis psychologue, je ne vais pas aller enlever la légitimité à ceux qui font des trucs, genre développement personnel, etc.,
Oh,
parce que
machin.
parfois, ils se prennent pour des psys. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Si ça
Ouais.
fait kiffer et si eux se sentent à leur place, tant mieux. Mais
Ouais.
par contre, bah, nous aussi, il faut qu'on arrive à prendre notre place quand on est légitime de le faire.
Et le faire. Mais du coup, bah, par exemple, par rapport à l'homme là qui a intervenu, est-ce que bah, ça serait pas plus facile de se sentir légitime aussi en tant qu'homme dans plein de
Ah non, mais
situations,
ça
tu
c'est
vois?
sûr.
Ouais.
Ça c'est sûr. Est-ce que ça nous ouvrirait pas la porte? Oh, j'ai hyper du mal à conjuguer nos verbes. Est-ce que ça va pas nous ouvrir la porte à un contenu sur le fait d'être une femme
Ouais, non, mais ça, faut absolument
de
qu'on le
manière
fasse semaine.
générale? Ouais.
Ouais, le fait d'être une femme et de tout ce que ça implique et tout, je pense que c'est encore plus dur de prendre une place légitime sur toutes les sphères, intellectuelles, médiatiques, spirituelles, etc. Et ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, comme tu as dit, à partir du moment où ça vous fait kiffer, il y a une cible,
Bah
il y a de
oui.
la demande et tout, juste go. Et je sais qu'on a grave du mal à se mettre des étiquettes, encore plus quand on vient de milieux un peu populaires, donc on est une femme, on est ci, on est ça. Moi, par exemple, je pense que j'ai dû prendre 2 ans à dire je suis auteur, alors que j'ai écrit un livre, donc je suis auteur, fin de l'histoire, tu vois.
Bah
Mais je me sentais pas du tout légitime à le dire. Et déjà, je me sentais pas légitime à écrire le livre de base, tu vois. Mais je me sentais pas légitime à dire que j'étais auteur. Et ce truc-là, je pense qu'il, dans un autre, tu vois, nous, on voit les gens et on se dit, ah, mais cette personne-là, elle est peut-être pas légitime, entre gros guillemets, elle le fait, donc moi aussi, je peux le faire, tu vois, j'ai les compétences et tout. Et ben, je pense que le fait que j'ai écrit mon livre a eu cet impact-là sur des gens aussi, qui se sont dit, à raison, hein, en gros, dans leur cerveau, ils se sont dit, elle vient pas d'un bac littéraire, de base, elle a rien à voir avec le milieu de l'édition, rien à voir avec le milieu de la littérature. Elle vient d'une classe populaire, enfin voilà, genre de base, c'est complètement dissocié, tu vois, dans l'esprit, et pour autant, elle a écrit un livre, elle l'a vendu, etc., etc. Et je pense que ces gens-là, ça a pu peut-être un petit peu faire diminuer ce syndrome de l'imposteur et se dire, par exemple, moi, bah, j'ai des compétences, j'ai déjà, je sais pas, fait correction de livres, j'ai écrit des choses, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bah, moi aussi, je vais me lancer. Et ça, et cet arbre, enfin, cette petite graine-là que j'ai plantée, en tout cas dans ma petite sphère, franchement, j'ai vu les retombées. Je vais pas faire la fausse modeste ou que
Mais oui.
sais-je. J'ai vu les retombées de personnes de près ou de loin qui, à la suite de la sortie de mon livre, ont écrit eux-mêmes des livres et les ont sortis et me les ont envoyés et voilà, qui me disaient, tu m'as trop motivée, ou d'ailleurs des gens que j'ai aidés, tu vois, à éditer leurs livres et tout. Et j'étais en mode, mais incroyable, en fait, les fruits qu'on peut semer quand juste on se lance dans un truc. Et c'est pour ça que oui, je les vois pas du tout en bizarre, ces gens-là, où je me dis pas, ah, ils sont pas légitimes ou quoi. Non, je me dis vraiment, ils le font, alors go, genre, on le
Bah
fait
oui.
aussi, tu vois.
Autre truc à ajouter par rapport à ça, c'est que c'est pas parce que ça floppe ou que ça ne marche pas que c'est nul.
Tellement.
J'ai des articles qui sont lus par une personne. Bah moi, je kiffe mon article, tu vois.
Totalement.
Il y a des gens que je suis sur YouTube, ils ont genre, je sais pas, 50 abonnés, mais c'est les personnes qui m'inspirent le plus et que je regarde le plus parce qu'ils m'apportent quelque chose d'intellectuel, parfois plus élevé que d'autres personnes qui ont 10 000 et tout. En fait, le nombre ne veut vraiment rien dire. Donc même si on fait des choses et que ça floppe et que ça marche pas, ça ne veut pas dire que bah, ça va jamais marcher et ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait était nul, tu
C'est
vois.
ça. Parce qu'il faut avoir en tête que sur les réseaux et sur Internet en général, il y a un surplus de contenu,
Ah oui.
d'informations, de production et tout. Donc peut-être que le fond, il est incroyable, mais c'est sûr que si on ne fait pas le travail à côté pour la forme, donc le marketing, la communication, le branding, enfin, plein de
Exactement.
choses, forcément déjà, bah, ça va être très compliqué. Et même si on fait ça, il y a une part d'aléatoire, il y a une part de, voilà, de... Ouais, que ça tombe dans les bonnes TL au bon moment et que ça soit partagé par les bonnes personnes et tout, avec le timing. Donc c'est là, on est complètement, enfin c'est totalement ça. Le fond peut être incroyable, c'est pas pour autant qu'on va avoir des retombées. Ça, c'est sûr.
Exactement,
Il faut pas
exactement.
douter de son travail.
Ah
Ouais.
non, non. À part si on se remet en question.
Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ça peut toujours être amélioré et tout, mais oui, à fond. Et j'ai deux questions. La première, c'est, tu vois, quand tu as été invitée pour faire ton TEDx, donc c'était sur les addictions, ça a été quoi un peu le processus, toi? En gros, c'est un sujet que tu maîtrisais déjà, tu as écrit. En fait, je veux trop voir l'univers derrière le TEDx, comment vous préparez vos pitchs et tout. Enfin, je trouve ça trop intéressant.
Ah, ok. Bah déjà, ils m'ont contacté grave en avance. Ils m'ont contacté, je sais pas, peut-être en octobre. En octobre, le TEDx, ils m'ont contacté au début d'année. Donc, début d'année, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils seraient intéressés pour faire un. Enfin, qu'ils font un TEDx et qu'ils cherchent justement une psychologue, etc.
Tu sais comment ils t'ont trouvé ou pas?
Bah, c'était une abonnée à moi. C'était une abonnée à moi qui était dans l'asso, justement, de l'école qui faisait ça. Et donc voilà, il cherchait une psychologue, etc. Donc pour le coup, je ne suis pas hyper qualifiée dans les addictions. C'est vrai que mes mémoires étaient sur ça, mes deux mémoires, celui que j'ai fait en M1 et celui que j'ai fait en M2, c'était sur les, enfin, c'était autour du thème des addictions. Le premier, je m'en rappelle plus. Le deuxième, c'était sur la dépendance aux réseaux sociaux, mais le premier, je m'en rappelle plus, c'était sur quoi. Ou peut-être que ça devait tourner autour des réseaux sociaux, parce que j'aime trop étudier.
Ça t'a très, très, très intéressé,
Mais en fait,
apparemment.
le M1, tu sais, c'est quand il y avait le Covid. Moi, j'étais pendant le
Oui,
Covid. Donc, en fait, c'était une
c'est
année un peu floue. Donc, bref, en tout cas, le deuxième, c'était sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais quand même un petit pied dans les addictions. Et
vrai.
après, on en a, en fait, bah, comment ça s'est concrètement passé? On a fait un premier rendez-vous visio de ce qu'ils attendaient, eux, de est-ce que moi, ça me paraissait faisable, des sujets qui nous paraissaient pertinents pour tourner autour de l'addiction. On est vite arrivé au truc de, bah, en fait, vraiment le cerveau, comment ça se passe dans le cerveau, donc vraiment cérébralement parlant, neurologiquement parlant, quand on est addict à quelque chose, et la petite touche des réseaux sociaux, toujours, pour parler des réseaux sociaux sur
Ouais.
le truc, on s'est mis d'accord sur ça. Ensuite, là, on s'est vu dans la vraie vie. Donc le premier rendez-vous en visio, c'était vraiment juste pour parler des formalités, des dates, de comment ça se passerait, de enfin ouais, des règles très générales. Le premier rendez-vous en présentiel, c'était vraiment pour parler de la thématique. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, ils m'ont mis une deadline d'écriture. Moi, je leur ai dit que j'avais pas forcément besoin d'aide pour l'écriture. C'est du coup mon domaine, j'aime trop écrire. Donc, il fallait juste me donner une deadline, parce que sinon, j'allais jamais m'y mettre. Ils m'ont donné une deadline. Ça devait être en août, en été. Je leur ai envoyé mon premier pitch, un autre rendez-vous du coup, où ils m'ont fait tous mes retours. Ça, c'est trop redondant, ça, on comprend pas parce que c'est peut-être trop psychologique, ça, c'est trop vulgarisé, tu refais. Donc en fait, ils m'ont fait tout leur retour, genre très édito, très édition. Je l'ai refait, je l'ai renvoyé, et là, on s'est vu plusieurs fois en fait pour faire la répétition dans la vraie vie. Et
Ok,
après, voilà. Et
ça
après,
va, t'as géré le stress sur le jour J.
oh! Bah, le jour J, oui, j'étais très, très détendue, j'étais partie faire ma petite vie au niveau perso, j'étais partie manger dehors, après je suis partie me prendre un café, après je suis en mode « Salut, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous? » Comme si je n'étais pas invitée pour parler. Et après, le stress, il est vraiment arrivé quand ça a commencé, en fait. J'étais vraiment hyper détendue, hein. Je me suis dit bon, en fait, moi, tu sais, comme je t'ai dit, je minimise tout. Donc je suis en mode « il n'y a pas d'enjeu, les gens, je ne les connais pas, demain, c'est fini. » Donc, tant que je
Tu
kiffe le
connais ton
truc.
truc, tu
Ouais,
l'as préparé.
mon sujet, je le connais. On l'a préparé depuis je ne sais pas combien de mois. Il est écrit, je l'ai appris par cœur. Ça va, quoi, tu vois. Par contre, le stress du pendant, ça, c'était difficile. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est une équipe. Donc, en fait, tu sais, il y avait beaucoup de gens. Il y avait une femme qui m'a grave aidée. On a fait des exercices de respiration ensemble parce qu'elle, elle était stressée, j'étais stressée. Donc, on s'aidait. Et après, le stress vraiment du moment avant où, en fait, on t'allume ton micro, t'entends le gars qui te présente, ça, c'est stressant. Donc là, il n'y a pas, là, y a pas, de, là, y a pas de solution miracle. C'est tu vis ton stress, en fait. Tu
Ouais,
vis ton
non, mais tu...
stress et n'oublions pas que le stress, c'est quand même une émotion qui t'apporte quelque chose. Ça veut dire que ça t'apporte les sensations physiques qui vont faire que tu es à 100% dans tes capacités, en fait. Tu vois? Donc, il y a du bon stress. Et
Ouais.
ça, pour le coup, c'est un bon stress. Et après, bah, en fait, quand tu montes, tu te lances, tu te lances.
Ouais, c'était pas le truc
Tu montes et
paralysant
après, tu fais.
la première fois que... Ouais.
Bah, je pense que ça l'a été pour personne, parce que du coup, tu as assisté au truc et tout le monde était stressé et il n'y a personne qui a été paralysé par le stress. Bien sûr, tu bugs. Bien sûr, il y a des moments où en fait le stress reprend le dessus parce que tu es trop dans tes pensées. Donc tu essayes de revenir sur ta ligne. Puis voilà, quoi. Mais sinon, tu es sur le moment, en fait.
Trop bien. Bah non, mais c'est bien aussi, tu vois, de dire que On peut faire des choses bah, trop bien, tu vois, des grosses choses, que pour moi, c'est incroyable. Et pour autant, bah, tu es quand même prise par le stress avant. Et voilà, quoi, c'est humain, en fait, c'est normal. Et je pense que la préparation, ça joue beaucoup sur ça. Enfin, moins tu es préparée et plus tu vas stresser parce que tu auras trop peur de t'afficher et tout. Ça t'a aidé le fait qu'il y ait quelques proches, justement, ce jour-là
Ouais, bien sûr.
Ouais,
Oh, ça aurait été encore plus dur parce que c'est quand même des gens qui sont, tu sais, mes piliers. Il y avait toi, il y avait ma famille et tout. Donc, c'était quand
Ouais.
même. Après, c'est les personnes que je regardais le moins
Ouais, donc
dans les spectateurs parce que c'est
dommage.
encore plus stressant de voir ton père te regarder.
Totalement, totalement.
Mais sinon, ouais, quand même, je pense que c'est important d'avoir justement, là encore une fois, une matérialisation du soutien en fait.
Ouais, ok, trop trop bien. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as deux, trois chaînes YouTube à nous conseiller?
Non, Adia, c'est la pire question que tu peux me poser.
Ah, tu vas répondre à ça maintenant, c'est ça.
Je peux pas. Attends. Bah, je peux dire les dernières vidéos que j'ai vues et qui étaient cool.
Ouais.
Par contre, j'ai pas le nom. Est-ce que tu m'autorises à regarder sur mon téléphone, madame?
Ah oui. Vas-y, regarde, tu
Ah,
prépares.
d'ailleurs, du coup, la première vidéo que j'ai regardée, mais par contre, ça a vraiment rien à voir. Donc, moi, ce qu'il faut, enfin, en fait, ce qu'il faut savoir, parce que je pense que les gens ne me connaissent pas forcément tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je regarde tout, je fais des vidéos sur tout, ça veut dire que ce soit sur des films, sur des musiques, donc il y a quand même un contenu que je regarde vraiment sur la musique, quoi. La dernière vidéo que j'ai vue, c'était sur Sandra Gomez, et elle a fait un peu, bah, en fait, les backstage, les behind the scenes d'un album. Donc sur un rappeur, etc., parce qu'elle est DA et tout, et donc elle a beaucoup aidé dans cet album. Et moi, j'ai trouvé ça trop intéressant parce que je suis animée par le côté créatif des choses.
Ouais, la création
Donc
artistique.
le rappeur, je le connais même pas, le gars, je l'écoute pas. Je l'écoute pas, je connais pas du tout. Mais en fait, c'est vraiment le truc de tout le côté vraiment créatif de waouh, t'es passé de rien à quelque chose. Et pour moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et sa vidéo, elle dure 40 minutes. J'aime trop les vidéos longues. Il y a ça. Il y a aussi une journaliste qui s'appelle Naomi Clément, qui maintenant fait des vidéos pour Apple et qui fait un peu, bah, tu sais, des interviews comme Mehdi Maizi. Et moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est un peu dur de reprendre le flambeau de Mehdi Maizi, on va pas se mentir. Et je trouve qu'elle a bien géré. Bon, elle reprend pas le flambeau parce qu'elle se lance sur sa propre chaîne, tu vois. Mais c'est quand même une journaliste qui parle bien, qui a une bonne élocution. Donc moi, j'ai grave kiffé. Donc il y a ça. Et après, il y a une dernière vidéo dont je voulais parler parce que elle, j'aime trop, trop, trop sa chaîne. Et en fait, elle est pas assez. Elle n'a pas assez
Ouais, c'est quoi?
buzzé. Mais en fait, c'est normal, elle n'est pas connue, cette personne-là. Elle s'appelle Fatima Remilat. Je ne sais pas si elle dit Remilat ou Kemilat.
D'accord.
Mais en fait, ce que je ferais, c'est que j'essaierais, tu sais, de mettre les petits.
Ouais, bah oui, on mettra les liens.
Et en fait, elle fait des vidéos un peu sur la spiritualité, sur la psychologie. Sa dernière vidéo, et j'ai trop aimé, elle s'appelle Accrochez-vous, période de transition, de deuil, d'insomnie, le lien, la chronobiologie. Donc c'est vraiment un peu plus scientifique, etc. Mais moi, j'ai trouvé ça mais passionnant du début à la fin.
Intéressant.
Toutes ces vidéos YouTube, j'aime trop, alors qu'elle n'est pas du tout connue. Et je les re-regarde, tu sais, genre tellement de fois ces vidéos, donc on dirait une folle. Mais ouais, ces trois vidéos, elles m'ont fait kiffer. Et du coup, bah, bien évidemment, je te demande la même chose. Soit trois personnes sur YouTube, ou trois personnes que tu suis, ou trois contenus que tu as regardés ces derniers temps qui t'ont bien inspiré.
Alors, on va aller dans mon historique.
Mais tu sais que ça, on pourrait faire vraiment, genre, chaque semaine sur, sur
Oui, mais grave, en
Instagram,
fait.
j'aurais toujours un
Quand
million
tu fais
de
ça sur Insta, parce que tu le fais souvent, c'est quand tu viens mettre les vidéos et tout, mais moi j'aime trop, c'est.
Il faudrait que je le fasse en plus, parce que ça fait vraiment longtemps que
Bah
je suis plus
oui.
sur les réseaux sociaux.
Non mais de ouf. Alors moi, là, c'est cette semaine, j'ai regardé toutes les vidéos parce que je ne le connaissais pas avant de Tel ici Japon. En fait, c'est un mec du coup qui habite au Japon, qui est marié avec une japonaise, et je trouve que c'est totalement différent de quelqu'un qui est juste expat avec sa femme française, parce que lui, du coup, il est complètement dans une belle famille japonaise. Donc bref, il nous raconte un peu tout ce qui se passe au Japon, l'éducation, la sécurité, plein de trucs. Et en fait, c'est un YouTuber qui existe depuis des années, des années, des années. Moi, je ne connaissais pas. Donc je me suis tapé toutes ses vidéos. J'ai découvert plein de trucs. Et du coup, super intéressant. Quelqu'un que je regarde beaucoup, c'est... Je regarde les vidéos que j'ai regardées ces derniers temps. Poum, poum, poum. Qu'est-ce que je peux... Je regarde beaucoup de vidéos comiques. Là, j'ai regardé juste 20 minutes de Farid.
T'as bien
C'était...
aimé?
Ouais, c'était archi drôle. Je regarde souvent ça quand je prépare à manger et tout, parce que du coup, ça me fait des sujets un peu légers, juste drôles. Et j'ai regardé la vidéo du coup que tu m'avais partagée, qui était l'interview de Shera avec Zaya. C'est quoi être une fille facile? J'ai trop kiffé parce que ça aborde beaucoup de notions liées à la féminité, le féminisme, au fait d'être une femme justement, et à plein de choses. Mais également, je trouve beaucoup de dev perso sur sur l'esprit critique en fait, sur qu'est-ce que je pense de choses qu'on me dit, de choses qu'on m'a normalisées, des choses que j'ai conscientisées depuis l'enfance ou dans un groupe d'appartenance et tout. Donc archi intéressant. Et voilà, après, j'aime beaucoup les interviews, genre les échanges, c'est un peu comme nous, mais
Pareil,
côté IT, de underscore, parce que du coup, ils vont parler de trucs en lien avec l'IT et tout, et je kiffe, parce que c'est très vulgarisé. Donc, c'est un peu ça ma semaine de YouTube.
Trop bien, je kiffe de ouf. On aime
Ben
trop.
voilà.
Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour?
Ouais, bah on peut, tu connais, en fait, on peut rester là toute la journée, de
Ouais,
toute
on peut parler tout.
Mais totalement. C'est pour ça que j'écoute de ouf les podcasts d'un mec qui... Ça s'appelle Génération Do It Yourself. Et ces podcasts durent genre des fois 3 heures et demie, tu vois, avec des gens qui l'interviewent. Et en fait, moi, je kiffe ce délire-là de prendre le temps. En mode, on n'est pas dans la consommation, genre quand... Enfin, tu sais, rapide des choses. On prend le
Bah
temps
oui.
de découvrir, de parler, d'aller en profondeur et tout. Et ça, moi, je kiffe. Donc...
Bah du coup, hier, ouais, moi aussi, j'ai été voir podcast en live. Alors, je sais plus le nom, j'avoue, mais je le partage, enfin, je mettrai parce que je pourrais le retrouver d'un gars qui fait des podcasts en live. Et en fait, il invite bon, des gens connus. Donc, le gars, il a percé. Moi, je suis juste. Moi, je connais pas les gens, mais le gars, il a grave percé. Il invite des gens hyper connus et tout. Et moi, j'ai kiffé. Ça a duré 2 heures. Donc, j'étais quand même hyper fatiguée quand je suis rentrée. C'est sur Paris. Mais c'était trop intéressant. Il parlait du monde, un peu de l'humour, parce que ça tourne plutôt autour de l'humour. Donc, il y a pas mal de blagues. Tu sais, c'est léger, mais en même temps, c'est profond. Ah, j'ai trop, trop aimé.
Donc ça s'appelle podcast en live, c'est
Ouais,
ça? Ok.
c'est ça. Mais
Donc
c'est
en
des
gros,
événements sur Paris.
ok, donc c'est un événement, genre il y a des gens, comme si là par exemple toi et moi on est en train de faire le podcast et on parle et tout, et bref, eux ils parlent
Et
d'où?
eux, il y a des gens, il y a un public. C'est juste que bah, y a un public parce que vraiment, les gens sont drôles. Du coup, c'est très, comment dire, c'est vraiment limite spectacle,
Stand-up,
tu vois.
ouais.
Ouais. Et franchement,
Ok.
c'était hyper cool parce qu'il y a quand même un fil conducteur, il y a des questions. Donc en fait, tout ce qu'on aime, tu vois, les entretiens entre plusieurs, deux ou plusieurs personnes, bah c'est hyper passionnant, ça nous anime énormément, nous deux.
Ok, trop trop bien. Bah franchement, j'irai voir, Inch'Allah. Et
Merci.
disclaimer, du coup, c'est une conversation, tu vois, très spontanée, naturelle et tout. Donc forcément, on peut dire plein de choses, tu vois, nos mots sont pas forcément
Merci.
choisis, pesés, etc. Donc voilà, comprenez des choses qui sont logiques et neutres, ne comprenez pas et n'essayez pas d'interpréter
Oui, en fait, il
des
faut pas
choses que nous
prendre
n'avons pas dites.
au mot. Ouais, faut pas prendre au
Voilà.
mot le mot. Enfin, il faut vraiment voir l'extérieur. Enfin, prendre avec de la distance ce qu'on dit. Et puis, ouais, comme on a dit,
Parce que franchement,
on l'a dit sur l'improvisation. Donc, bien évidemment que parfois il y a des trucs si on les prend brut comme ça peut être mal interprété, etc. Faut toujours réussir à prendre de la distance. Et bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Le
totalement,
but, c'est pas de
totalement.
créer un débat, c'est juste de partager des réflexions qu'on a ensemble très régulièrement, mais pour une fois au grand public.
C'est ça. Bon, bah, trop, trop bien. Merci, Mène, pour ton temps.
Merci à
Merci,
toi.
moi.
Merci à toi, notre très chère Ania. Et j'espère qu'on
Voilà.
fera plusieurs contenus ensemble, Inch'Allah.
Ouais, Inch'Allah. Gros bisous à vous tous. Bonne soirée, bonne journée selon votre fuseau horaire. Passez un bon temps, prenez soin de votre cœur, votre corps et à très vite!